Vous écoutez
RMC. RMC. 7h-9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
6h58, excellent réveil à tous. Bienvenue dans Apolline Matin si vous nous rejoignez. Nous sommes le jeudi 18 juin, jusqu'à 39 degrés dans le centre de la France. Plus chaud et partout. Alors comment s'adapter? Il faut repenser nos logements, nos bureaux, nos écoles. Voilà ce que nous expliquera un ingénieur climatique dans 10 minutes sur RMC. Et puis j'attends vos témoignages. Comment est-ce que vous gérez ces vagues de chaleur à répétition? Est-ce que vous avez changé vos habitudes, vos horaires? Vous nous appelez au 3216 ou vous nous écrivez 0612 424 424. Et puis cette question à la une, la fête de la musique, est-ce que c'est politique? Pour LFI, c'est oui. Pour la préfecture de Paris, c'est non. LFI qui prévoyait une grande soirée de concerts et de prise de parole militante place de la République dimanche soir pour la fête de la musique, interdit. La députée LFI Alma Dufour répondra à mes questions à 7h40 sur RMC. Et puis je vous attends aussi, est-ce que vous comprenez que ce concert militant ait été annulé? Est-ce que c'était le lieu, le jour? Est-ce que vous envisagiez de vous y rendre? Vous nous appelez au 3216. Je poserai aussi la question, tiens, à mon invité à 8h30, la porte-parole du gouvernement, Maude Bréjon. Elle est aussi ministre de l'énergie. Les prix à la pompe vont baisser. Voilà ce que promet Emmanuel Macron. Mais quand? Réponse donc à 8h30 sur RMC et BFM TV dans le face-à-face. Et puis c'est l'événement sur RMC. On continue à vous mettre beaucoup d'argent dans la cagnotte. La prime de match avec les matchs de la nuit. Le montant de la prime est, au moment où on se parle, de 67 500. Retenez bien ce chiffre, 67 500. Il y aura une alerte d'ici 9h pour pouvoir jouer et un nouveau tirage au sort aujourd'hui à 18h. Si vous avez en tête le montant de la prime de match, 67 500, elle sera pour vous. C'est 6h59. Dans un instant, le journal de 7h. Mais d'abord, la météo, évidemment, et cette vague de chaleur qui se poursuit, Lou Garnier.
Oui, 26 départements placés en vigilance orange canicule par Météo France aujourd'hui. Ça concerne l'Île-de-France, le centre et l'est du pays. Et puis 43 départements en vigilance jaune canicule. Seule la pointe bretonne et le pourtour méditerranéen vont rester en vert. À l'heure où je vous parle, il fait 14 degrés à Rouen, 18 à Nîmes et Lyon et jusqu'à 22 degrés à Nice. Les températures montent cet après-midi. On est entre 8 et 15 degrés au-dessus des normales de saison. On aura 38 degrés à Périgueux et Auxerre et jusqu'à 39 degrés à Melun. Une chaleur qui va perdurer demain, jusqu'à 38 degrés attendus localement entre le centre, l'Île-de-France, la Champagne et la Bourgogne. Et toujours des nuits suffocantes, notamment dans les grandes villes où on ne descend pas en dessous des barres des 20 degrés. Et pour le moment, on ne sait pas quand cette vague de chaleur va prendre fin. Le pic des températures est attendu lundi. On pourrait frôler les 40 degrés notamment.
Très bon réveil à tous. Il est 7h. Merci d'avoir choisi RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texer. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. C'est signé, Américains et Iraniens ont paraphé le protocole d'accord pour la paix au Moyen-Orient. Et c'est depuis Versailles, à la surprise générale, que Donald Trump a signé son exemplaire. RMC y était. La chaleur qui va gagner en intensité, il fait déjà très chaud ce matin. Nous irons à Lyon, dans le Rhône, l'un des 26 départements en vigilance orange à la canicule. Et la mort d'Éric Roy, l'entraîneur de Brest, a perdu son dernier match contre la maladie. Il avait 58 ans.
La paix au Moyen-Orient.
Le protocole d'accord a été signé hier soir à distance entre l'Iran et les États-Unis. Il prévoit la fin totale des hostilités, la levée du blocus des ports iraniens par les États-Unis qui s'engagent de leur côté à faciliter le déblocage de 300 milliards de dollars en cas d'accord définitif. L'Iran, de son côté, s'engage à diluer son uranium enrichi et de fait renoncer au nucléaire. Donald Trump, je vous le disais, il a paraphé son exemplaire depuis le château de Versailles lors d'un dîner organisé par Emmanuel Macron. Thomas Baker du service politique RMC hier. Était une signature qui n'était pourtant pas prévue au protocole, Thomas.
Donald Trump vient de boucler une courte visite de la Galerie des Glaces. Il s'installe à table, on entend le bruit des couverts. Et là, son ministre des Affaires étrangères lui apporte une copie de l'accord qu'il signe sous les yeux d'Emmanuel Macron.
Bravo!
Donald Trump prend le document en photo, l'envoie aux Iraniens. En coulisses, même les équipes de communication d'Emmanuel Macron sont étonnées. À la sortie, le président, lui, se félicite de l'accord.
Un accord qui permet de mettre fin au conflit, qui permet la paix, la réouverture du détroit d'Hormuz sans péage et 60 jours qui vont s'ouvrir pour conclure un accord sur le nucléaire, le balistique et les activités régionales.
Emmanuel Macron insiste en expliquant que l'accord bénéficiera aussi aux Français.
Enfin, c'est un moment de paix et une bonne nouvelle. nouvelle pour beaucoup de nos compatriotes parce que les prix, normalement, du carburant aussi vont baisser, les prix du gaz.
Cette signature inattendue dans la nuit versaillaise offre une occasion à Emmanuel Macron de répondre à ceux qui lui reprochent d'avoir reçu Donald Trump en grande pompe. Versailles est un lieu qui inspire, dit-il, ça rappelle la force de l'histoire.
Et vous avez entendu Emmanuel Macron qui dit c'est une bonne nouvelle aussi parce que les prix à la pompe vont baisser. Et la question, je la poserai à la ministre de l'énergie. Elle sera sur RMC et BFM TV, mon invitée à 8h30.
Et une cérémonie de signature doit désormais se tenir demain en Suisse pour commémorer l'événement. Aussi donner le coup d'envoi des discussions techniques 60 jours pour aboutir à un accord final. De la région parisienne aux Alpes, la vague de chaleur s'intensifie dès la mi-journée. 26 départements seront en vigilance orange à la canicule, moins d'un mois après un premier épisode inédit pour la saison. Ce nouveau coup de chaud va s'inscrire dans la durée jusqu'en début de semaine prochaine à minima. On attend jusqu'à 37 degrés ce jeudi à Lyon. Caroline Renaud, vous êtes sur place ce matin en direct pour RMC Le Rhône, où de nombreux dispositifs anti-chaleur ont été déployés dans plusieurs communes, Caroline.
Oui, ici, les premiers réveillés ont sorti les shorts et les gourdes car la chaleur est déjà bien installée et la ville se réveille sans la fraîcheur habituelle du matin. C'est justement pour ça qu'une salle climatisée va ouvrir d'ici une heure dans la mairie du 7e arrondissement de Lyon. Les parcs, eux, resteront ouverts jusqu'à minuit et plusieurs piscines ont élargi leurs horaires. À Vénissieux aussi, ça s'active depuis ce matin. Les habitants inscrits sur le registre communal sont appelés un par un. L'objectif, s'assurer que tout va bien et pour les plus fragiles, des distributions d'eau sont prévues à Villeurbanne et à Villefranche sur Saône, où l'on pourrait atteindre les 37 degrés. Plusieurs résidences climatisées ouvrent leurs portes à tous ceux qui cherchent un peu de fraîcheur. Même dispositif à Bron, où les plus vulnérables peuvent être pris en charge à domicile. Et puis, la préfecture du Rhône rappelle aussi quelques bons réflexes. Boire de l'eau régulièrement, éviter de sortir aux heures les plus chaudes et manger suffisamment.
Caroline Renaud, en direct de Lyon ce matin, notez qu'il est aussi déconseillé de faire de l'exercice en extérieur. De nombreux événements prévus ce week-end ont été annulés. C'est le cas aussi de certains concerts prévus dimanche pour la fête de la musique. Autre événement annulé, et ce n'est pas le fait de la chaleur, mais de la préfecture de police de Paris. Elle interdit le concert de la France Insoumise prévu dimanche, place de la République à Paris, en raison de troubles à l'ordre public. Décision que le parti de Jean-Luc Mélenchon a décidé de contester en déposant un recours. Cyprien Pézril avec Victor Girard.
Des rappeurs, une drag queen et des prises de parole politiques, voilà le programme initial présenté par les Insoumis. Mais ce qui pose problème à la préfecture de police, c'est la présence aussi d'Assa Traoré et du rappeur Medine, à qui il reproche des propos incitant à la haine, avec le risque, assure le préfet, d'attirer un public hostile aux forces de l'ordre. Ces dernières heures, beaucoup, dont Ariel Veil, maire PS du centre de Paris, où se trouve la place de la République, réclamait cette interdiction.
Je suis plutôt soulagé, moi. Je pense que dans un contexte où il y a du monde partout dans la rue, si on doit en plus avoir des forces de police qui font face à un concert politique, ça me paraissait très très compliqué et plutôt des ingrédients pour un potentiel désastre. Voilà, le risque qu'il y ait vraiment des blessés, des morts.
Scandale démocratique, s'indigne Adrien Clouet, député LFI et proche de Jean-Luc Mélenchon. Son parti demande à la justice en urgence d'autoriser la soirée.
Il s'agit d'une atteinte à la liberté d'expression. Nous, lorsqu'on fait un événement d'une grande ampleur, on a généralement à peu près une centaine de personnes pour sécuriser et organiser l'ensemble de la gestion de la foule. Évidemment que, pardon, on sait gérer un concert et peut-être même qu'on sait mieux le faire que le préfet de la police de Paris.
Et le tribunal administratif de Paris devrait trancher dans les toutes prochaines heures.
Et la députée LFI, Alma Dufour, sera mon invitée à 7h40 sur RMC. Et puis je vous attends au 32-16. Est-ce que vous comprenez que la préfecture de Paris ait annulé ce concert militant dimanche soir organisé par LFI? Ou est-ce qu'au contraire, vous ne comprenez pas cette décision? Je vous attends au 32-16.
Il est 7h06 sur RMC. Le parquet de Paris va faire appel de la relaxe d'un animateur du périscolaire parisien. L'homme d'une quarantaine d'années est poursuivi pour harcèlement et agression sexuelle sur 9 jeunes filles mineures, toutes élèves de CM2. On en vient aux aveux d'un jeune mineur qui a reconnu le meurtre d'une octogénaire la semaine dernière au bord d'un étang à proximité d'un camping du Gros du Roi dans le Gard, un jeune garçon de 15 ans qui a donc, Maxime Cluyer-Ruzard, reconnu les faits.
Oui, peu après le début de sa garde à vue, mardi, l'adolescent a reconnu avoir tué l'octogénaire. L'autopsie de la victime menée la semaine dernière laissait peu de doutes sur l'origine criminelle, évoquant un décès à la suite de plusieurs coups et l'usage d'au moins une arme par destination. Après les faits, plusieurs témoins auraient aperçu un homme muni d'une perceuse, rapporte la presse locale. L'adolescent interpellé est inconnu des services de police et de justice, mais un point commun a été relevé par les enquêteurs. Ce jeune de 15 ans habite et est scolarisé dans un collège à proximité de l'étang où a été retrouvé le corps de la victime.
Jusqu'au bout, il aura lutté. Eric Roy est mort, passé par Marseille, Lyon et Nice. Le consultant RMC lors de l'Euro 2024 s'est battu contre la maladie à l'abri des regards. Son courage, David Alias, est salué ce matin par le monde du foot. L'entraîneur de Brest qui était encore sur le banc pour la dernière journée de Ligue 1 fin mai.
C'est un cancer du pancréas qui a emporté Eric Roy à l'âge de 58 ans. Une maladie contre laquelle il se battait depuis plus de 3 ans avec une force impressionnante, a précisé sa fille. Une maladie que ses proches, son staff et ses joueurs connaissaient. Et il s'était même confié à certains de ses cadres sur la gravité de son état, racontait son capitaine Brendan Chardonnay hier soir à l'antenne d'RMC.
Compliqué à trouver les mots, savoir quoi dire, mis à part le remercier de tout ce qu'il a pu faire pour nous tous. Et c'est quelqu'un qui a toujours voulu masquer sa maladie. Il en a jamais parlé au groupe officiellement.
Mais l'ancien milieu de terrain, passé notamment par l'OM, n'avait jamais fait part publiquement de sa maladie et souhaitait continuer à entraîner le Stade Brestois normalement. Troisième du championnat pour sa première saison, il avait fait découvrir au club la Ligue des Champions en 2024. Sur Instagram, le club breton a rendu hommage à son coach, aimé et respecté des supporters, et qui a contribué à écrire les plus belles pages de l'histoire du club.
Et un hommage lui a été rendu hier par les Bleus qui ont respecté une minute de silence au lendemain de leur victoire face au Sénégal. Les remplaçants ont disputé un match amical face à une équipe locale avant une soirée libre en présence de leur famille. Pendant ce temps, l'Angleterre a frappé fort en battant la Croatie 4-2. Le Portugal déçoit, match nul un partout face à la République démocratique du Congo. Cette nuit, le Ghana a battu le Panama 1-0 et la Colombie, vous l'avez vécu sur RMC, l'emporte 3-1 face à l'Ouzbékistan.
C'était le journal de Thibaut Texer, il est 7h08 sur RMC. Et évidemment, vous le disiez Thibaut, cette très forte vague de chaleur, 39 degrés à Montluçon, probablement autour de 40 degrés ce week-end dans la région parisienne. Une nouvelle vague de chaleur qui traverse donc la France. Et il va falloir s'y habituer. Alexandre Florentin, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes ingénieur en sécurité climatique. Vous travaillez sur ces questions depuis des années. Logement, bureau, école, horaire, rapport même à l'été. Il va falloir s'adapter. Il va falloir tout repenser. Voilà ce que vous nous dites dans un instant. Je vous attends au 32-16, 7h09.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h12 et vous êtes bien sur RMC et RMC Story. Deuxième vague de chaleur en moins de 3 semaines sur une très large partie du pays. 26 départements en vigilance canicule dès aujourd'hui. Alexandre Florentin, bonjour. Vous êtes ingénieur en sécurité climatique. Vous avez fondé le mouvement Demain 50 degrés. En gros, il va falloir s'adapter. Votre parti pris ce matin, c'est qu'il faut tout repenser. Il est 7h13 là. Les familles sont en train de prendre le petit-déj. Les enfants partent à l'école. On fait quoi? Est-ce qu'on les laisse partir dans des écoles qui, pour la plupart, sont devenues vraiment des sortes de pièges et de fournaises?
Sacré dilemme, hein. Encore hier, un parent d'élève me disait que dans la canicule précédente, son fils saignait du nez tous les jours à cause des températures dans sa classe. Donc, la canicule précédente, c'était un des collégiens que j'entendais dans un parc dire qu'ils allaient sécher l'école à cause des chaleurs. Donc on est dans des dilemmes comme ça de santé versus aller à l'école pour...
On adapte quoi? On adapte le bâti, on adapte les horaires, comment on fait?
Il faut jouer sur tous les leviers à l'heure actuelle, surtout quand là on est dans l'urgence absolue. Il faut absolument utiliser par exemple des couvertures de survie pour faire servir de protection solaire. On a des parents d'élèves qui ont fait ça, ils ont permis de gagner 4 degrés dans une classe de manière quasi instantanée. Vous les collez à l'extérieur des fenêtres, l'effet est quasi immédiat, c'est comme si vous débranchiez un radiateur qu'on aurait mis dans la classe à cause du soleil.
Et ça coûte pas très cher.
Ça coûte pas très cher. Dans l'urgence, c'est le genre de solution qu'il faut faire. Il y a quelques jours, on aurait dû lancer l'alerte au niveau de l'État pour aérer la nuit, parce que là, vous gagnez aussi quelques degrés quand
pour dire dans tous les bâtiments publics d'aérer toute la nuit.
Là, on parle de l'école, mais c'est aussi à l'hôpital. Ça peut être aussi dans des bâtiments publics comme des bâtiments d'administration, de préfecture. Tous ces bâtiments-là, ils sont pas prévus pour. Et là, on en fait des pièges thermiques.
L'été, jusqu'à présent, c'était une saison de plaisir. Et pour vous, c'est en train de devenir un cauchemar?
Pour moi, mais j'ai aussi plein de gens autour de moi qui me disent craindre l'arrivée de l'été et des fortes chaleurs. D'ailleurs, il va peut-être falloir qu'on change de vocabulaire parce qu'il y a une sorte de sur-été qui arrive. Vous imaginez si on a 40 au mois de juin, ça va ressembler à quoi le mois de juillet et le mois d'août demain?
Comment est-ce qu'on peut agir sans que ça coûte des milliards? Vous disiez éventuellement donc cette idée toute simple d'aérer dans les jours qui précèdent pour que les bâtiments aient emmagasiné cette fraîcheur. Vous parlez de ces couvertures de survie qui sont des choses qui coûtent très peu cher, qui se déplient en un instant et qu'on peut mettre sur les fenêtres. Qu'est-ce qu'il faut également avoir adapté, je disais, les horaires? Est-ce que l'école devrait par exemple être plus tôt le matin avec une vraie pause à l'heure du déjeuner?
Vous avez des pays du Maghreb qui font ça. Quand la période chaude arrive, l'école commence une heure plus tôt. C'est des choses qui avaient été discutées à la convention citoyenne sur les horaires et les rythmes scolaires. Le président Macron a plutôt choisi de dire on réduit les journées et on n'a qu'un mois de vacances. Bon, bah ça ne marche pas dans le nouveau régime climatique.
Dans le nouveau régime climatique, c'est ça que vous dites également. Il y a Vincent qui est avec nous en direct du Tarn. Bonjour Vincent.
Bonjour ma Pauline.
Comment ça va Vincent? Vous êtes au volant, je sens. Soyez prudent.
Attendez. Ouais, non, je suis dans ma mini-pelle en fait.
Bon, ok. Parce que vous bossez en extérieur, vous êtes technicien dans des jardins, c'est ça, dans des espaces verts?
Alors, ouais, moi j'ai une entreprise, je suis spécialisé dans les clôtures en fait.
D'accord.
Voilà. Donc on bosse limite Tarn Aveyron. Alors chaque année, on a cette problématique de la chaleur parce que c'est vrai que ça monte très vite. Mais bon, eh ben, on s'adapte. Je veux dire, on attaque très très tôt le matin et à 2h on arrête et puis voilà, quoi, c'est tout. Hein.
Ça veut dire que là, vous avez commencé à quelle heure par exemple, Vincent?
On avait rendez-vous à 5h au dépôt, on est sur chantier à 6h. Bon, okay. Après, la problématique qu'on a, c'est en milieu urbain parce qu'on se fait un peu engueuler parce qu'on fait du bruit. Mais bon, c'est comme ça, quoi. Je veux dire, on le dit aux voisins qu'on va faire un peu de bruit et puis c'est tout. Hein. Ouais. Donc, on ne peut pas faire autrement. Alors, l'hiver, il y a la neige, l'été, il fait la chaleur, mais il faut bien qu'on continue à bosser. On n'a pas trop le choix, quand même.
Hein. Donc, pour vous, Vincent, c'est pas non plus un drame. C'est-à-dire qu'il faut s'adapter. J'entends dans votre voix que bon, c'est pénible, mais bon, ça fait partie.
Ben, j'ai vraiment l'impression qu'on entend surtout les gens qui sont en ville se plaindre. Nous, à campagne, la vie, elle continue. Je veux dire, il fait chaud, on travaille. Il fait froid, on travaille. Et puis, c'est comme ça, on s'adapte, quoi. Je veux dire, on n'entend jamais se plaindre les gens du Tarn, de la Lozère et du Cantal, quoi. Je veux dire, c'est tout le temps les urbains qui se plaignent. Nous, on fait notre travail. Et c'est tout. On n'a pas le choix, on avale ça.
Vous étiez adapté. Alors après, il y a effectivement une problématique aussi du bâti en milieu urbain. Mais ça veut dire, Vincent, par exemple, vous travaillez en équipe, j'imagine, il y a des salariés, ouais. Tout le monde est OK pour adapter les horaires quand il fait chaud.
Ben ouais, et puis je veux dire, on est content de rentrer à 2h, on va faire la sieste et puis voilà quoi.
Ouais, ça. Après, donc votre journée, elle est finie à 14h.
Ouais, après je veux dire, si on travaillait l'après-midi, on serait pas en canne, quoi. Je veux dire, à l'après-midi, il fait tellement chaud, on rentre, on est épuisé, quoi. Donc, on s'arrête demi-heure à midi, et puis on mange vite fait, et puis on repart au table jusqu'à 2h, 2h30, quoi.
D'accord, voilà. et après, effectivement, il faut récupérer et se reposer. Merci beaucoup, Vincent. Quand on entend Vincent, Alexandre, Florentin, qui dit, bah voilà, on adapte nos horaires, c'est le bon réflexe.
Tout le monde se débrouille, bien sûr. Et ça permet d'éviter des morts. À la dernière canicule, on a quand même eu un couvreur de 19 ans qui est décédé. Peut-être aussi parce que
ça a fait partie,
pas eu d'adaptation.
Et d'ailleurs, ne manquez pas à 7h50 la voix de gauche Cécile Duflot tout à l'heure qui nous dévoilera le rapport de son ONG Oxfam sur les conséquences des canicules sur notre santé. Alexandre Florentin, hier, le ministre du Logement, Vincent Jeanbrun, a annoncé qu'il y aurait une TVA réduite sur les pompes à chaleur, qu'il y aurait des facilités pour les copropriétés. Il en avait déjà parlé, mais il essaie de rendre la chose plus concrète. Pardon, mais une question, pourquoi pas la clim pour tous?
Parce que déjà ça prend tout le temps.
Je vous choque. Je suis désolée. Moi, j'ai vécu aux États-Unis. J'étais la correspondante pendant 3 ans. Il fait extrêmement chaud, mais ce n'est pas une question parce qu'en fait, il y a du chauffage l'hiver, il y a de la clim d'été. Je me souviens de ma grand-mère qui me disait, quand on était petit, il y avait pas de chauffage. Mm-hmm. Et certaines maisons, petit à petit, ont mis ce qu'on appelait le chauffage central. Mais c'était une révolution. Oui. Avant, on n'avait pas le chauffage. Pourquoi est-ce qu'on mettrait pas des clims pour tous de manière démocratique aux États-Unis? Vous pouvez pas louer un appartement sans chauffage, mais sans clim.
En fait, ça prend du temps d'installer des climatisations. Là, on est dans l'urgence. L'année prochaine, vous n'aurez pas le temps de climatiser toutes les écoles, tous les hôpitaux. Donc, on va aller vers ça. Ça fait partie de l'arsenal et vous faites bien le parallèle avec le chauffage. Avant de mettre du chauffage, on se dit, on va mettre un pull et on va apprendre à fermer la fenêtre. Sur la climatisation, on va mettre des stores extérieurs pour éviter que la chaleur rentre. On va apprendre à vivre avec la chaleur et la climatisation fait partie de l'arsenal. Et ensuite, dans la climatisation, il y a plusieurs technologies. Il y en a qui posent plus de problèmes que d'autres. Par exemple, des climatisations à base de géothermie ou avec l'eau de la Seine.
Il y a désormais des systèmes qui permettent que la clim ne soit pas aussi polluante qu'elle ne le fut.
Oui, il y en a. Et donc, c'est cela qu'il faut favoriser. Mais on ne s'en sortira pas uniquement avec ça. La climatisation, elle va pas résoudre le problème de ce monsieur qui, pour l'instant, arrive à s'adapter avec des horaires. Mais demain,
demain 50 degrés, pour reprendre le nom de votre mouvement, de votre think tank, évidemment ce sera beaucoup plus difficile. Merci beaucoup d'être venu ce matin, Alexandre Florentin. Vous êtes ingénieur donc en sécurité climatique et je le rappelle cofondateur de ce mouvement Demain 50 degrés. 7h20, Arthur Chevalier est avec nous. Bonjour Arthur.
Bonjour Pauline.
Arthur, je voudrais que vous écoutiez ce que disait à mon micro hier la présidente de l'Assemblée nationale.
Il ne faut pas politiser la fête de la musique. La fête de la musique, c'est une fête qui appartient à tous les Français. C'est un moment de joie, de fête collective, de partage.
Est-ce qu'elle a raison? Est-ce que l'histoire donne raison à Yael Braun-Pivet, Arthur?
En tout cas, c'était une fête créée par la gauche au pouvoir, très critiquée par la droite. Sur le papier, c'était quand même une idée politique.
Et vous nous le dites dans un instant, il y aura aussi Arnaud Demange qui va venir pirater le face-à-face. Mon invité, c'est Maud Bréjon à 8h30. Il est 7h20, ne bougez pas, on se retrouve dans 60 secondes sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Il est 7h22 sur RMC et sur RMC Story, comme tous les matins, l'histoire éclaire notre actualité avec Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Hier soir, la préfecture de police de Paris a annoncé interdire le concert militant de la France Insoumise qui était prévu place de la République à Paris ce dimanche pour la fête de la musique. Une décision justifiée par des risques de troubles à l'ordre public.
Oui, et la France Insoumise a fait un recours contre cette décision. Pour rappel, ce concert, c'était la fameuse fête de la musique antiraciste prévue dimanche 21 juin, soit le jour de la vraie fête de la musique. Bon, c'était une sorte de contre-soirée organisée par Jean-Luc Mélenchon. Alors, à part le concert, il y avait quand même des prises de parole politiques qui étaient prévues, hein. Hier, à votre micro, Apolline, Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, déclarait déjà qu'il n'était pas possible de récupérer la fête de la musique à des fins politiques.
Sauf qu'à l'origine, la fête de la musique, elle était politisée.
En tout cas, c'était formellement une création politique. C'était une idée de Jack Lang, qui était ministre de la Culture d'un gouvernement socialiste, nommé par un président socialiste, c'était François Mitterrand. Et en fait, Jack Lang, après avoir lu une enquête sur les pratiques culturelles, il avait découvert que 4 millions de Français jouaient d'un instrument. Donc là, il s'est dit, banco, on fait une fête. En 1982, il crée la fête de la musique, un événement gratuit, dédié à tous les musiciens, surtout amateurs. Ça sera le premier jour de l'été, le 21 juin.
Au début, ça n'a d'ailleurs pas plu à tout le monde.
Ça n'a même plu à personne, en fait. L'événement a été annoncé très tard. Du coup, pour l'organisation, c'était le bazar total. À Paris, la préfecture a même essayé d'annuler l'événement. Les chaînes de télévision ont, quant à elles, refusé de s'associer à cette fête de la musique. Bref, pour beaucoup de gens, cette fête était ringarde avant même d'avoir commencé. Et Jack Lang a eu tellement peur que ça soit un flop qu'il a dit aux gens que ça ne durait qu'entre 20h30 et 21h, histoire de minimiser le risque. Finalement, le 21 juin 1982, au soir, c'est un triomphe, hein. 1 million de Français étaient au rendez-vous.
La droite était contre la fête de la musique.
Elle a même voulu l'interdire, la fête de la musique, Apolline. En 1986, la droite remporte les élections législatives, Jacques Chirac devient Premier ministre, et donc là, il veut changer de politique culturelle, et il pense sérieusement à ne pas reconduire l'événement. Mais c'est finalement son nouveau ministre de la Culture, pourtant de droite lui aussi, qui le convainc in extremis de maintenir une fête qui avait quand même la faveur du public. Mais entre nous, c'était moins une.
Et depuis, ça a été exporté. Il y a des fêtes de la musique partout dans le monde.
Eh oui, 2 ans après sa création, la Belgique crée sa fête de la musique. Ça arrivera ensuite en Allemagne, en Espagne, en Italie, en Chine, aux États-Unis. Aujourd'hui, Apolline, 120 pays célèbrent la fête de la musique à travers le monde. C'est probablement le plus grand succès français de ces 45 dernières années.
Merci Arthur Chevalier. Tiens d'ailleurs, cette interdiction donc de cette fête de la musique, de ce concert militant de LFI, on y revient à 7h40 puisque la députée insoumise Alma Dufour répondra à mes questions. 7h24, Arnaud Demange.
RMC.
Demange pirate, le face-à-face.
Salut Arnaud.
Et bonjour,
à 8h30, tout à l'heure dans le face-à-face, mon invité c'est Maud Bréjon, la porte-parole du gouvernement.
Oui, que j'ai vu, qui est pas ravi. Essayons avec Maud, c'est toujours la même chose, quoi. Maud, elle est pas invitée à Versailles pour le dîner trop classe. Mais alors, par contre, pour se lever tôt et aller se faire pourrir par Apolline dans son studio à côté du périph, alors là, on retrouve voilà. Son 06 à Maud. Ouais. Franchement, je vais fuguer de ce gouvernement. Moi, ça va bien. Donc, c'est la porte-parole du gouvernement. Je suis sûr que pour faire plaisir à Trump, à Versailles, ils auraient été foutus de la déguiser en ménestrel. Ça aurait été génial avec un chapeau à grelots. Oyez, notre bon roué Emmanuel va souper avec le gouverneur de la colonie américaine. Alors, chance-t-on prestement ritournelle. M'en allant voir mamie. Oh, elle est rigolote. Vive Versailles, vive la France. Et il se fout de ma gueule en plus. Et on lui pèlera le jonc comme au bailli du Limousin. Mais surtout, Maud, elle est là pour l'annonce du jour. Le gag de la semaine, ça c'est hilarant. Le Premier ministre Sébastien Lecornu veut faire des tests de dépistage de drogue aux membres du gouvernement.
Oui, c'est il incroyable. A commencé d'ailleurs,
paraît-il. C'est incroyable. Oui, il y a 15 jours apparemment. Mais c'est vrai que, vu ce qu'ils nous proposent tous depuis 9 ans, c'était important oui. De tester les drogues. Et alors là, soit les résultats sont positifs et c'est inquiétant, soit les résultats sont négatifs et c'est encore plus inquiétant en fait. Et alors, est-ce qu'ils vont tester Macron hein? Monsieur le Président, c'est quoi les rails là sur votre bureau?
C'est de la poudre de perlimpinpin.
Bah oui, bien sûr, bien sûr. Alors, la drogue, c'est mal, c'est pas bien. Mais d'un autre côté, est-ce qu'il serait pas temps d'introduire le dopage en politique. Dans le sport, oui, on a eu des performances incroyables. Le sport, c'était super.
Et oui, très belle performance de Lance Armstrong qui vient de boucler Paris-Roubaix en 17 minutes.
Vous voyez, c'était dingue. Alors un politicien sous coke, par exemple, il va bosser 23 heures par jour. La planète est sauvée dans 3 semaines. Notre-Dame aurait été reconstruite en 5 semaines. La paix au Proche-Orient. Elle peut revenir avec des bons gros joints. Oh, on est tous amis. Ça va, en tout cas, ça va pas donner envie aux députés LFI de devenir ministre, cette histoire. Mais je suis sûr qu'on va trouver quelque chose. Jean-Pierre Farandou, l'ancien président de la SNCF, je suis sûr qu'il se tape des rails. Laurent Panifou.
Il y en a un qui l'a eu.
Laurent Panifou, qui est drogué à la bonne huile d'olive de notre province. Et alors, Michel Fournier, on l'a testé, on n'a pas retrouvé de drogue chez Michel Fournier, mais une grande quantité de somnifères et des cordes dans sa camionnette blanche.
Oh non.
Ouf, il est clean, tout va bien. Et rendez-vous avec Maud Bréjon à 8h30.
À 8h30 et avec vous à 8h15. Il est 7h22, à tout de suite pour la météo du journal. 7h29, grande chaleur, Lou Garnier.
Oui, 26 départements placés en vigilance orange, canicule aujourd'hui par Météo France. Ça concerne l'Île-de-France, le centre et l'est du pays. Et puis 43 départements en vigilance jaune, canicule. Seule la pointe bretonne et le pourtour méditerranéen vont rester en vert. Ce matin, il fait 15 degrés à Rennes, 19 à Cognac et la maximale, c'est à Nice, où il fait déjà 23 degrés. Les températures grimpent. Cet après-midi, il fera 36 degrés à Paris et Bordeaux, 39 à Montluçon et on aura même des pointes jusqu'à 40 degrés comme à Vichy. Un mot pour ce week-end, la brève accalmie au nord de la Loire samedi, où les températures vont baisser un petit peu, mais ça reste chaud. Le pic de température sera dimanche et lundi, avec 40 degrés attendus dans plusieurs villes du sud-ouest notamment.
Il est 7h30 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Clara Gabier. Bonjour Clara.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Pour suivre les consommateurs de drogue jusque dans les ministères, Sébastien Lecornu demande d'instaurer des tests salivaires surprises pour les fonctionnaires, peut-être bientôt chez les salariés du privé. Cela va d'une parole déplacée à des palpations de seins sans autorisation. On vous dévoile la toute première étude nationale sur les violences gynécologiques, violences déjà vécues par plus d'une femme sur deux. Et puis toutes les stars du mondial ont brillé jusqu'ici, sauf une, Cristiano Ronaldo. Le Portugal a concédé hier le nul contre la République démocratique du Congo.
Il y aura donc bientôt des tests antidrogue chez les fonctionnaires.
Des tests salivaires inopinés et obligatoires dans les ministères, les préfectures, les administrations. C'est la consigne donnée par Sébastien Lecornu, le Premier ministre qui a lui-même été dépisté et qui se veut intraitable contre les consommateurs de drogue en donnant l'exemple donc d'abord chez les fonctionnaires avant peut-être de généraliser ces tests chez les salariés du privé, ceux qui ont des métiers à risque, comme les conducteurs de cars ou d'engins de chantier. Martin Lange, ils sont déjà susceptibles d'être testés.
Au volant de sa mini-pelle, Herman s'active pour refaire la chaussée. Ouvrier depuis 20 ans, il n'a jamais été soumis à un dépistage.
Si on n'a rien à se reprocher, il n'y a aucun souci à soumettre au test. C'est pas le jour où il y a un accident qu'il faut dire c'est trop tard, on aurait dû vérifier avant. On a des métiers physiques, on manie des engins et des choses dangereuses, donc il faut être clean.
Un peu plus loin, Carlos, électricien, est lui plus mesuré.
C'est du flicage, c'est sûr. Ça veut dire qu'il n'y a pas de confiance envers les gars aussi.
Virginie Chevalier est la présidente de la Confédération des petites entreprises du bâtiment en Ille-et-Vilaine. Pour elle, imposer ces dépistages aux entreprises semble peu réaliste.
Dans les petites TPE comme les nôtres, je pense que c'est très compliqué à mettre en place. Les contrôles devraient être faits par un service extérieur, parce qu'une fois de plus, on reporte la responsabilité sur l'employeur.
D'autres secteurs sont plus en avance, comme le transport routier.
On est sur une majorité d'entreprises qui le font au moins une fois, voire plusieurs par an.
Erwan Poumerouli de la Fédération Nationale des Transports Routiers.
S'il y a une nécessité de faire des contrôles plus larges, il y a un surcoût qui ne pourra pas être supporté uniquement par les entreprises.
Voté au Sénat en avril dernier, une loi prévoit des dépistages obligatoires pour les conducteurs de bus et de cars, mais pas pour les chauffeurs de marchandises.
C'est l'image de la soirée Donald Trump aux côtés d'Emmanuel Macron au château de Versailles. Donald Trump qui signe l'accord avec l'Iran pour mettre fin à la guerre. Les deux pays doivent encore négocier pendant 2 mois. L'Iran s'engage notamment à diluer ses stocks d'uranium enrichi en échange de la levée des sanctions. Le détroit d'Ormuz sera instantanément rouvert, promet le médiateur pakistanais. La chaleur s'abat sur la France et nous ne sommes pas au bout de nos peines. On devrait atteindre les 40 degrés aujourd'hui, le pic attendu entre dimanche et lundi. 40 degrés pour la fête de la musique. Ce sera a priori le cas dans le Maine-et-Loire où des concerts sont d'ores et déjà annulés à Angers, mais aussi la fête du vélo en Anjou. 25 000 cyclistes inscrits pour cette fête populaire, mais la sécurité n'était plus au rendez-vous, explique Rodolphe Ligonnière, l'un des organisateurs.
Là, au niveau des températures, au soleil, on serait autour de 45-46 degrés. Donc, on est vraiment sur des températures qui sont vraiment dangereuses pour des familles avec des enfants sur ce type de parcours. C'est la particularité de la fête du vélo en Anjou, c'est que ces routes départementales peu ombragées, on va avoir beaucoup plus chaud naturellement que si on était dans des petits chemins ou sous la forêt, par exemple. Donc, il est préférable effectivement pour nous d'annuler, pour préserver la santé et puis toute l'organisation autour, parce qu'il y a beaucoup de bénévoles, d'associations, et on essaie d'être beaucoup plus vigilant, évidemment.
Le parquet de Paris fait appel de la relax prononcée avant-hier pour un ex-animateur périscolaire d'une école parisienne qui était le premier jugé dans ce scandale, jugé pour harcèlement et agression sexuelle sur mineurs. Le tribunal correctionnel avait considéré que l'infraction n'était pas assez caractérisée. On en vient à cette étude qui nous apprend que le consentement des patientes est encore largement entravé lors d'examens gynécologiques. Étude de l'association Stop aux violences obstétricales et gynécologiques dans laquelle 8 femmes sur 10 rapportent au moins une atteinte à leur consentement pendant une consultation ou un examen, des touchés non prévus, sans autorisation, par surprise, des douleurs aussi. Une victime a accepté de témoigner au micro RMC d'Inès Zegloul.
Par où commencer ?
C'est pas évident.
Rire nerveux, Caroline évite de nous regarder dans les yeux. Elle retrace son parcours, l'un de ses premiers passages en cabinet gynécologique. Elle a 21 ans.
Elle a commencé à me toucher les seins comme ça, en fait. Elle m'a pas dit, je vais pratiquer une palpation mammaire.
Puis il y a eu le personnel de la maternité, les mains qui s'occupent d'elle lors de son premier accouchement.
La sage-femme m'a fait une expression abdominale sans m'avertir. On appuie très fort sur le ventre, très violemment.
L'impression d'être un cobaye, dit-elle.
Mais inférieure au médecin. Sur le fait, on peut absolument rien dire, rien faire.
Alors elle le refoule jusqu'à ce rendez-vous il y a 3 ans.
C'était un examen de postpartum. Il a fait un toucher vaginal. Ce praticien a décidé de lui-même, sans m'avoir averti auparavant, sans qu'en fait ce toucher vaginal ne soit inscrit au protocole de l'examen. Je me suis mise à mon bureau, j'ai pleuré. Je me souviens que j'étais complètement perdue.
Et 3 ans plus tard ?
Bah, 3 ans plus tard, bah, je devrais faire des examens et j'ai pas envie de les programmer pour l'instant.
Vous n'arrivez pas ?
Non, ça me rend malade.
Caroline a porté plainte contre son dernier praticien. J'ai une fille, conclut-elle dans un soupir, et son futur gynécologique me terrifie.
Un témoignage recueilli par Inès Zegloul pour RMC. La Coupe du Monde, avec une entrée en lice ratée hein, pour le Portugal, tenu en échec par la République démocratique du Congo. Match nul 1-1, plombé par la contre-performance de Cristiano Ronaldo, la star qui n'a pas vraiment existé hier soir, Xavier Grimaud.
Oui, il reste bien sûr l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais hier, pour sa 6e Coupe du Monde, Cristiano Ronaldo n'a pas vraiment existé. Les Congolais Charles Piquel et Samuel Moutoussami semblaient les premiers surpris.
C'est Ronaldo, c'est quelque chose, c'est une légende pour le foot.
Ouais, il y a une certaine fierté aussi à avoir muselé Ronaldo.
Ils n'ont pas vraiment eu à forcer. Ronaldo n'a touché que 25 ballons dans la rencontre pour 3 tirs seulement, dont 0 cadré. Son sélectionneur, Roberto Martinez, l'a pourtant laissé toute la rencontre, telle une statue que l'on ne peut pas déboulonner, même si à 41 ans, Ronaldo a semblé faire son âge.
I think we treat every player in the same way.
Nous gérons tous les joueurs de la même manière, match après match. Cristiano est évalué selon sa forme et son ressenti, pas par son âge. Dans ce type de match fermé, il faut utiliser ses qualités. Il attire les défenseurs et reste important dans la surface. Chaque joueur a un rôle et Cristiano est essentiel pour finir les actions.
Essentiel, vraiment, Ronaldo n'a plus marqué depuis maintenant 10 matchs dans un grand tournoi avec la sélection portugaise.
Un contraste avec l'Angleterre qui a parfaitement réussi son début de mondial. Victoire 4-2 contre la Croatie grâce à un doublé notamment du capitaine Harry Kane. Cette nuit, le Ghana s'est imposé 1-0 contre le Panama. Et puis la Colombie l'a emporté 3-1 contre l'Ouzbékistan.
Et puis le Quintet, Clara, c'est à Paris-Longchamp ce soir, 20h15.
Et la Dream Team des courses RMC vous conseille de jouer son favori, le numéro 3, Too Darn Quick. L'outsider, c'est le numéro 2, Cozy Bear, le 3 et le 2.
C'était le journal de Clara Gabi. Il est 7h37 et c'est le moment. Mais oui, vous l'entendez, c'est le moment. C'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match sur RMC. Et vous entendez tous les zéros qui défilent. Oui, parce que vous le savez, on rajoute 500€ à chaque but marqué pendant cette Coupe du Monde. Avec les buts de la nuit, on est à 67 500€. 67 500€, retenez bien ce chiffre, parce qu'il y aura un tirage au sort aujourd'hui. Et si vous connaissez le montant de la prime, alors elle est pour vous. Pour jouer, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16. But au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire. Il est 7h38.
75 centimes par SMS, 3 SMS maxi. RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Et on l'a appris hier soir, la préfecture de police de Paris a décidé d'interdire le concert et les prises de parole militantes organisées par LFI pour la fête de la musique. Place de la République, les Insoumis qui annoncent un recours. Bonjour Alma Dufour.
Bonjour.
Vous êtes députée LFI de Seine-Maritime, la préfecture qui met en avant un risque important de débordement des intervenants connus pour leur position hostile aux forces de l'ordre. Vous nous dites dans un instant pourquoi cette décision vous révolte. Le mot est juste.
Le mot est juste.
Le mot est juste. Mot est juste. Et vous, au 32-16, vous n'hésitez pas évidemment à réagir. Qu'en pensez-vous de cette interdiction? Le 32-16 ou le WhatsApp de l'émission 0612 424 424. À tout de suite.
RMC, jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Vous êtes bien sur RMC, il est 7h42. Tiens, je vous rappelle qu'il vous reste 6 minutes pour tenter de remporter la prime de match. Elle est actuellement de 67 500. Pour vous inscrire, vous envoyez tout de suite but au 7-32-16. But au 7-32-16. Et retenez bien ce chiffre, 67 500 euros. Le tirage au sort aura lieu aujourd'hui avant 18h. 7h42, la politique et cette interdiction de ce concert militant d'LFI lors de la fête de la musique de dimanche soir. Est-ce que la fête de la musique, c'est la fête de la musique ou c'est une fête politique, Alma Dufour? Vous êtes députée LFI de Seine-Maritime. Pourquoi ce ne serait pas juste la fête de la musique dimanche?
Et c'est la fête de la musique parce qu'en fait, c'est surtout un concert qu'on organise. Hein. Donc en fait, déjà, ce qui est très, très, très affligeant, c'est le niveau d'amateurisme de la préfecture de Paris, puisqu'on a lu évidemment l'arrêté d'interdiction qui est motivé par la présence de gens qui ne performent pas à ce concert. Donc très concrètement, ils visent des artistes qui ne sont pas dans la programmation.
Mais qui seront présents, qui devaient
non,
être présents.
Non,
ils évoquent par exemple Médine.
Mais non. En fait, il y a une marche antiraciste plus tôt dans la journée à 14h à Barbès à laquelle se joignent beaucoup de personnalités.
Qui elle est autorisée d'ailleurs.
Qui elle est autorisée. J'invite tout le monde qui est concerné par la montée du racisme et des agressions racistes en France à se joindre à nous. C'est à l'appel de Bali Bagayoko, du coup, notre nouveau maire de Saint-Denis. Non, il y a effectivement des personnalités qui se rendront à cette marche. Donc, je crois Médine, Assa Traoré, qui sont citées dans l'interdiction de la préfecture, mais ce n'est pas du tout les artistes qui vont performer le soir même place de la République, donc on est consterné, on y voit une commande politique, parce que nous on est en plus en discussion avec la préfecture, évidemment depuis au moins 2 mois. On ne fait pas un concert place de la République à Paris, avec tout ce que ça implique en termes de sécurité, d'investissement, etc., sans avoir eu l'autorisation préalable des services de l'État, c'était le cas.
Et vous donc, les aviez prévenus, aviez-vous eu pour autant sûr. L'autorisation, c'est-à-dire les services de l'État disent, oui, on était prévenus, on a reçu des lettres.
Mais évidemment, enfin je veux dire, sinon on peut pas faire ça, on peut pas engager de telles dépenses, et c'est ça que je veux dire. C'est-à-dire qu'on offre un spectacle, on offre un concert gratuit d'artistes quand même de haut niveau, d'artistes qui se produisent dans tous les festivals de France, à la jeunesse notamment, parce qu'on a fait une programmation ciblée aussi sur
après,
les jeunes.
Après, pardon, je vous arrête tout de suite, parce que vous dites, vous avez commencé par dire, c'est surtout un concert. Oui, mais c'est pas que un concert.
C'est un concert.
Non, vous avez dit la phrase, c'est surtout un concert.
C'est un concert qui véhicule des valeurs antiracistes.
Telle qu'elle était annoncée, c'était prise de concert et
prise de parole.
Cancer et prise de parole militante.
Il devait y avoir 3 prises de parole. Il doit y avoir 3 prises de parole. Enfin, c'est vraiment pas du tout.
Mais est-ce que vous seriez prêt à annoncer à ça en disant, faites de la musique, ok, on fait un concert.
Mais en fait, en même temps, il y a aucun article de la Constitution ni aucune loi qui interdit à des gens militants de s'exprimer dans la rue dans le cadre de la fête de la musique. La fête de la musique, justement, le principe, c'est vraiment que c'est ouvert à tous, que c'est gratuit,
exactement,
et que tout le monde peut l'organiser. Dans ce cas-là, pourquoi la préfecture de Paris n'interdit pas un concert qui se tient à place du Trocadéro, si mes informations sont bonnes, qui est un concert organisé par des soutiens de la politique du gouvernement de Netanyahou? C'est assez choquant, c'est un concert qui est destiné
le soir de la fête de la
musique, à redorer l'image d'Israël en plein génocide. Si on va commencer à discuter de qui a le droit de faire un concert ou pas, je peux vous dire qu'il y a quand même
vous
pas mal de choses.
Vous demandez l'interdiction de ce concert? J'ai jamais entendu parler de ce concert,
Je vous le dis, vous pourrez vérifier. Non, je demande pas l'interdiction, parce qu'en fait, on n'en est pas
c'est
là.
C'est un concert de soutien à Netanyahou?
Oui.
Dimanche soir.
Un concert de soutien à Israël. C'est pas marqué soutien au gouvernement israélien actuel.
Oui, mais
évidemment.
Alors ça veut dire que vous estimez effectivement que le soir de la fête de la musique n'est pas un soir qui doit être politique. Donc en fait,
est-ce que j'ai demandé l'interdiction? J'ai pas du tout demandé l'interdiction. Nous, on veut que notre concert ait lieu. On veut que notre concert ait lieu. Je pense qu'il est attendu par beaucoup de jeunes. C'est un concert gratuit. Regardez, on en est aujourd'hui. La gauche, et notamment la France
Insoumise, gratuit, c'est la fête de la musique.
Oui,
la musique, par principe,
ce que je veux dire, c'est que les artistes qui performent n'auraient pas performé gratuitement si on n'avait pas payé les déplacements, si on n'avait pas fait des frais pour organiser un système façon. Je veux dire, nous, on en est pour plusieurs dizaines de milliers d'euros de notre poche. Tout ça pour faire plaisir aux gens. Enfin, c'est quand même un peu, c'est quand même un peu
Emmanuel, fort de gâteau. Emmanuel, vous nous appelez de Bordeaux, en Gironde. Vous avez 47 ans. Vous êtes assistant juridique. On fait ça pour faire bonjour. Plaisir aux gens. Voilà ce que nous dit Alma Dufour. Et aux jeunes. Est-ce que vous dites merci?
Ah, moi, je dis pas merci du tout. C'est très instructif ce que cette dame nous apprend. Voilà, on a l'habitude des coups d'éclat de LFI, de Monsieur Bakayoko, récemment, la récupération foireuse, pardon pour le vocabulaire, tout aussi récemment du maillot de l'équipe de France. Mais moi, au-delà de ça, il y a une question que je me pose, qui est toute simple, par rapport à LFI, qui ressemble plus à une nébuleuse qu'à un parti politique. C'est qui finance et comment?
Bah, vous savez quoi, je pose la question tout de suite à Alma Dufour. Qui finançait ce concert?
Bah, les adhérents. On a un parti politique avec des financements. C'est tout simplement ça. Et vous savez, monsieur, la loi de financement des partis politiques, heureusement en France, est bien plus stricte et bien plus encadrée qu'aux États-Unis, par exemple. Ça n'empêche pas des fois qu'il y ait des affaires comme l'affaire Big Malion, par exemple, qui visait la droite, ou certaines affaires concernant l'affaire Alstom, concernant monsieur Macron et sa campagne de 2017. Mais nous, si vous regardez, on n'a jamais eu de problème d'ingérence étrangère, de financement douteux. Je vous rassure, il n'y a aucune multinationale du CAC 40 qui a vraiment envie, malheureusement pour nous, qu'on arrive au pouvoir parce qu'on est là pour la justice sociale. Donc vous inquiétez pas, c'est vraiment les cotisations de nos adhérents qui sont très contents justement d'offrir un concert à la jeunesse d'Île-de-France.
Réponse d'Alma Dufour. Et Emmanuel, je crois que vous évoquiez aussi, vous parliez des éventuelles questions de Bali Bagayoko. Une question pour vous, Alma Dufour. Il a déclaré hier dans la presse que siffler la Marseillaise, je cite, siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire, et il précise parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici, dans les grands stades, sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Ça veut dire quoi?
Mais ça veut dire, on est déjà, il dit que c'est un droit et pas que c'est ce que nous on aimerait faire. Parce que je rappelle quand même que la
vous
France.
Vous ne le souhaitez pas, vous ne trouvez pas souhaitable de siffler la Marseillaise.
Je vous dis par exemple au meeting de Saint-Denis il y a à peine 10 jours, on a tous chanté la Marseillaise. Donc on chante la Marseillaise à la fin de tous nos meetings, tous les meetings de la France Insoumise. On brandit des drapeaux français, donc on a le mot France d'ailleurs dans notre parti.
Rôle,
on
est
un parti extrêmement patriote.
De condamner le fait de siffler la Marseillaise.
Parce qu'à un moment donné, il faut savoir si on est Charlie ou si on n'est pas Charlie. Je veux dire, est-ce qu'on a le droit de critiquer, de blasphémer même, c'est-à-dire le rapport, c'est qu'en fait c'est sacré la Marseillaise, que ça représente l'identité nationale. Est-ce que pour des raisons politiques, des raisons de critique de l'action d'un État, on peut estimer que des gens ont le droit de siffler la Marseillaise? Moi, c'est pas mon cas, j'ai jamais sifflé la Marseillaise, et comme je dis, je la chante à tous les meetings, et tous les membres de la France Insoumise, y compris Bali Bagayoko, la chantent et l'ont chantée il y a 10 jours. Mais c'est inquiétant. Imaginez-vous dans un autre pays, on dirait est-ce qu'on doit poursuivre pénalement, parce que c'est ça le débat qui a été même soulevé.
Non, mais là la question n'était pas posée. Question de est-ce qu'on condamne le fait de siffler la Marseillaise?
Moi, je vous réponds que c'est pas ce que nous faisons. Nous sifflons jamais la Marseillaise, nous la chantons. Après, je pense que des gens ont le droit légitime de critiquer la politique de l'État français.
Parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici, dans les grands stades, sont citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Pardon, j'ai pas compris.
Eh bien, je pense qu'il évoque le cas des binationaux. Je pense qu'il évoque le cas des binationaux
qui
français.
Qui sont... on peut comprendre du coup qu'ils sifflent la France.
Non, c'est pas ça, mais on peut comprendre aussi que sur certains pays, en tout cas, le gouvernement et ces dernières années, je pense notamment à l'Algérie, a considérablement manqué d'égard au ressenti en fait des personnes binationales qui peuvent avoir un affect.
Et vous trouvez pas que l'Algérie elle a manqué d'égard vis-à-vis de la France là?
Bah franchement, honnêtement, vous voulez que je vous refasse l'historique?
Vous parlez de Christophe Glaize, vous voulez?
Non, mais l'historique de la relation franco-tunisienne depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron est quand même honnêtement un historique très compliqué pour la Macronie.
Mais vous trouvez qu'aujourd'hui il est davantage souhaitable d'avoir le fonctionnement démocratique de l'Algérie que de la France?
Pas du tout. Pourquoi vous dites ça?
Bah non, parce que vous dites
la France. Vous voyez, à chaque fois, et par exemple les États-Unis, est-ce que vous trouvez souhaitable d'avoir le président Trump? Et pourtant, je vais pas dire qu'il faut.
Ça fait deux jours qu'on se pose tous la question de savoir s'il fallait l'inviter à Versailles.
Insulter le président Trump qui vient signer à Paris un accord. Je veux dire, les relations diplomatiques, c'est plus compliqué que juger avec un score Nutri-Score les régimes démocratiques.
Je veux dire, est-ce qu'on peut juste
est-ce qu'on se pose les mêmes questions justement sur l'Arabie Saoudite, sur le Qatar? Il y a énormément de pays qui ont des gros problèmes de droits humains, de respect des droits de l'homme, de régime démocratique. La question, c'est qu'en France, on a une très grande communauté binationale concernant les Algériens. algérien et que notamment dans la personne de Monsieur Retailleau, le ministre de l'Intérieur, ce pays a fait l'objet d'une surfocalisation et d'attaques constantes qui sont très maladroites, si c'est... Je vais m'arrêter là, par rapport au ressenti d'une partie des binationaux.
Et donc, vous comprenez que ces gens-là, en tout cas, vous ne condamnez pas l'idée que...
Je condamne pas, moi, encore une fois, je ne le fais pas. Et encore une fois, il y a beaucoup de binationaux dans nos meetings qui chantent la Marseillaise. Ils chantent aussi l'Internationale communiste, d'ailleurs, si ça vous intéresse.
Effectivement, il y aura les deux. Et puis, ça peut être une autre manière de faire la fête de la musique. Donc, merci en tout cas, Alma Dufour, d'être venue répondre à mes questions ce matin et à celle d'Emmanuel. Il est 7h51. Cécile Duflo est rentrée dans ce studio. C'est le jour de la Voix de Gauche. Bonjour, Cécile.
Bonjour.
Cécile, vous êtes ancienne ministre. Vous êtes l'actuelle patronne d'Oxfam, la canicule. On le savait, mais dans un rapport que vous publiez aujourd'hui, vous en avez la preuve.
Oui, beaucoup de chiffres, mais un terrifiant. Les fortes chaleurs augmentent de 7% le risque de mourir d'un infarctus. Il faut s'en saisir et il faut agir maintenant.
Vous nous le dites dans un instant, 7h51 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la Voix de Gauche, mais d'abord le bonus. Victor, ce matin, on lance le plus gros festival de France.
Eh oui, et le Hellfest 2026 démarre ce soir. Sachez que j'ai reçu des messages de menaces de Mathieu Béliard pour faire cette chronique. Mathieu qui sera à Clisson parmi les 280 000 spectateurs entendus pour voir le groupe Iron Maiden que vous entendez, mais aussi The Offspring. Tout plein d'autres artistes, évidemment, sur la dizaine de scènes du Hellfest. Il y aura aussi cette immense statue inaugurée aujourd'hui, 7 mètres de haut, à l'effigie d'Ozzy Osbourne, chanteur iconique de Black Sabbath, père du métal, décédé récemment.
RMC, Apolline Matin,
Voix de Gauche,
Voix de Droite.
7h53 et c'est jeudi, c'est la Voix de Gauche, Cécile Duflo. Bonjour Cécile, vous êtes ancienne ministre mais vous dirigez désormais Oxfam France et votre ONG publie ce matin un rapport sur les conséquences des canicules sur la santé.
Écoutez, on publie toujours des très bons rapports mais je dois dire que celui-là, il m'a filé même personnellement une claque. Ça fait 25 ans que je suis écologiste, on parle des conséquences du dérèglement climatique sur la santé mais là maintenant c'est documenté, ce rapport c'est uniquement des travaux scientifiques, on l'a fait avec des experts et des données officielles. Et donc la chaleur aujourd'hui en France, c'est 5398 décès par an. Et la dernière canicule a tué plus de moins de 45 ans que de plus de 45 ans.
Donc ça touche les jeunes.
Ça touche les jeunes, ça touche les enfants. Au cours d'une canicule de plus de 7 jours, les cas d'insuffisance rénale aiguë augmentent de 70%. Donc en fait, ça aggrave les maladies chroniques, mais pas que. Ça fait augmenter le risque d'une naissance prématurée de 26%. C'est des chiffres qui sont vraiment très importants et qui devraient tous à la fois nous saisir et nous faire réagir.
Alors il y a un risque particulier aussi avec les feux de forêt. Ça c'est aussi important, les dégâts environnementaux, mais aussi sur la santé justement d'ailleurs.
Oui, les feux de forêt, ça provoque une augmentation des particules fines. Et donc l'augmentation des particules fines, c'est l'augmentation de l'asthme. Les méga feux qui ont eu lieu dans les Landes en 2023, c'est plus que la circulation des camions en France. Donc en fait c'est très important. Mais il y a aussi les maladies infectieuses. Et là on est au bord d'un sujet très difficile. En parlant, je me dis, c'est vraiment, on est une dose après l'autre, mais en fait, la réalité, c'est que depuis 2004, le moustique tigre a colonisé 79 départements en France, celui qui apporte le chikungunya. Et en 2025, il y a eu plus de cas de chikungunya en Corse que dans toute l'UE, en Corse et en France, pardon, que dans toute l'UE ces 10 dernières années. Donc, on est dans une situation vraiment où... chaque degré d'augmentation de la température, ça augmente le risque d'infection et par exemple le risque d'infection aux salmonelles. Enfin, le spectre est quand même très très large. On n'est pas prêt, on n'est pas préparé.
On est tous vulnérables et quelles sont les conséquences donc ?
Et alors, on est tous vulnérables, mais plus on est pauvre, plus on est exposé. Et plus on est une femme, plus on est en danger. Chaque augmentation de température de 1 degré augmente le risque d'AVC de 3,8%. Et les femmes hospitalisées pour AVC meurent 65% plus souvent que les hommes. Donc ça rajoute une inégalité sur les inégalités de santé qui sont déjà profondes en France, puisque si vous faites partie des 5% d'hommes les plus riches, vous avez 7 fois moins de risque de mourir avant 50 ans que vous êtes si vous faites partie des 5% les plus pauvres. Et les plus pauvres sont encore plus exposés à la chaleur, notamment du fait de leur emploi.
Avec la grande question, qu'est-ce qu'on fait ?
Ben, on sonne la mobilisation générale. Non, là, je pense que vraiment, il faut être extrêmement conscient du risque qui est devant nous pour tout le monde. Avec plus 3 degrés de réchauffement, ce qu'on nous annonce, les fortes chaleurs causeraient 2,5 fois plus de morts qu'avec 1,5 degré. Donc, tout ce qu'on fait pour lutter contre le réchauffement climatique est utile. Mais surtout, on sait qu'on a besoin d'investir. Et donc, je voudrais que ce chiffre-là, il soit bien dans la tête de tout le monde. Financer l'adaptation du système de soins à tous les enjeux que j'ai dit d'ici 2050, c'est 17 mois des bénéfices de Total Energy. Donc, ce n'est pas une somme hors de portée. C'est vraiment une question de volonté politique. Et là, maintenant, tout de suite, et notamment avec cette vague de canicule, il faut insister sur la prévention de tout le monde, des plus jeunes, mais aussi des adultes. Parce que, je le redis, les moins de 45 ans sont plus morts de la canicule de mai que les plus de 45 ans.
Merci Cécile Duflot, Voix de Gauche sur RMC. Demain, place au débat. Voix de droite, Voix de Gauche, vous serez face à Charles Consigny. Il est 7h57. Dans un instant, la météo évidemment et le journal de 8h largement consacré à cette vague de chaleur qui s'installe sur la France. Il y aura aussi l'économie avec Emmanuel Le Chypre qui nous dira que le pouvoir d'achat des Français est en berne. À tout de suite.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.
Merci d'avoir choisi RMC. Très belle journée à tous. Il est 8h.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Quentin Vinet. Bonjour Quentin.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Les 40 degrés, donc peut-être bien dès aujourd'hui dans le centre de la France. Nous serons à Lyon dans ce journal où il fait déjà très chaud ce matin et à Angers où des concerts prévus pour la fête de la musique sont déjà annulés. On va vous donner dans ce journal les détails que l'on a enfin sur l'accord de paix qui a été trouvé et signé entre l'Iran et les États-Unis. Et on prendra des nouvelles des supporters de l'équipe de France à la Coupe du Monde de football avec une confirmation. Et ben c'est que les prix sont, oui, très élevés.
La journée risque d'être plus chaude que prévu.
Oui, on va peut-être bien donc atteindre les 40 degrés dès aujourd'hui dans l'Allier et dans le Cher notamment. Il faisait déjà 25 degrés à 7h du matin. En Saône-et-Loire, c'est la température maximale qui a été relevée. Dans ces départements donc qui font partie des 26 à être en alerte orange canicule, elle s'étend de la région parisienne jusqu'à la région lyonnaise. Lyon, c'est là que vous êtes en direct ce matin pour RMC Caroline Renaud, chez un boulanger qui a déjà très chaud devant son four ce matin.
Oui, à peine la porte de son four ouverte, c'est une vague de chaleur qui arrive en plein visage et un thermomètre à près de 45 degrés à quelques centimètres d'Alain, boulanger depuis 40 ans.
Dès qu'on ouvre, il y a toute la condensation qui sort. Donc du coup, c'est à chaque fois un mouvement de chaleur qu'on se prend en plus.
Ici, les bouteilles d'eau sont déjà alignées sur un plan de travail car le patron sait que les prochaines heures vont être difficiles. Fatigue, coup de chaud, alors il essaye d'anticiper au maximum.
Là, on fait courant d'air depuis ce matin et puis tout à l'heure, on va tout refermer. En fabrication, on ne travaille pas l'après-midi pour éviter justement les gros coups de chaleur.
Quelques mètres plus loin, Romain pétrit sa pâte et prépare le pain. Il est encore tôt, mais la sueur perle déjà sur son front.
On a le refroidisseur d'eau qui est là, qui du coup refroidit l'eau impérativement pour le pain parce que sinon on n'y arriverait pas. Le refroidisseur rejette de la chaleur aussi, donc on a la chaleur qui vient de là, on a la chaleur qui vient du four. C'est impossible. Je sais que je vais suer comme un fou jusqu'à dimanche prochain, ce serait difficile. Ouais.
Une sensation d'étouffement dès qu'il passe la porte du fournil. À chaque fois, c'est minimum 5 degrés de plus qu'à l'extérieur, dit-il. On est quand même mieux l'hiver, glisse sa collègue.
Et on leur souhaite bon courage à tous ces boulangers qui travaillent là ce matin dans la très forte chaleur. On l'entend avec vous depuis Lyon. Alors c'est dimanche et lundi qu'on attend le pic de chaleur. Dimanche, jour de la fête de la musique, hein, chacun l'a bien noté. Et il y a déjà des villes de l'Ouest qui annulent des concerts ou des festivités. Hein, dimanche, Romain Houx, c'est le cas notamment à Angers.
C'est un événement qu'ils attendaient avec impatience. Des artistes locaux et 10 heures de concert. Place Michel Debré, mais voilà, devant la chaleur écrasante attendue dimanche jusqu'à 40 degrés à Angers, sur une place sans aucune ombre, en plein soleil. L'association organisatrice a préféré annuler. Grégory Buon en est le coordinateur.
On avait eu à peu près les mêmes chaleurs l'année dernière sur une journée, le samedi à 10 heures du matin. Clairement, c'était déjà intenable. En fait, toutes les équipes étaient très fatiguées, usées par la chaleur. Donc cette année, on s'est dit, on préfère reporter le dispositif.
Concert annulé aussi à la collégiale d'Angers. La plus vieille église de la ville n'est pas équipée face à une telle chaleur. Pour autant, tout ne devrait pas tomber à l'eau. Pour l'instant, la fête de la musique est maintenue, assure la mairie qui prévoit de mettre en place des barres à eau. Des équipes de protection civile seront également déployées dans toute la ville.
La fête de la musique qui tourne à la polémique à Paris. Alors rien à voir avec la chaleur, mais la préfecture de police a pris un arrêté pour interdire le concert organisé par la France Insoumise dimanche, place de la République, car il y a, je cite, le risque d'attirer un public hostile aux forces de l'ordre. C'est ce qu'écrit la préfecture de police dans son arrêté. Les Insoumis annoncent un recours et dénoncent, je les cite, une instrumentalisation des problématiques de maintien de l'ordre à des fins politiques. La bourde à Besançon. On apprend ce matin que 22 élèves ont planché hier sur le mauvais sujet du bac, sujet d'histoire-géographie, après une erreur dans la distribution des copies. Les organisateurs avaient reçu l'ordre de distribuer les sujets de secours. C'est ce qu'explique le rectorat. Ils n'auront pas à repasser l'épreuve. Hein, et c'est ce sujet-là, celui qui leur a été distribué, qui sera pris en compte. Ça, c'est peut-être bien un sujet du bac là qui va arriver dans quelques années. L'histoire retiendra que c'est au château de Versailles que Donald Trump a signé hier soir, l'accord visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient avec l'Iran. Emmanuel Macron salue d'ailleurs un moment de paix. Antoine Hollard, vous êtes le correspondant de RMC aux États-Unis. On en sait davantage ce matin sur ce qu'il y a, le contenu de cet accord.
Oui, la première concession majeure, elle concerne le détroit d'Ormuz. Il rouvre dès aujourd'hui, le passage des bateaux sera libre, mais dans un premier temps seulement, après 60 jours, il pourrait y avoir un système de péage. Deuxième concession, c'est la levée immédiate de toutes les sanctions sur le pétrole iranien. Téhéran va donc pouvoir vendre ses hydrocarbures en toute légalité et donc encaisser énormément d'argent. Sur le nucléaire, enfin, à ce stade, il n'y a rien de concret. Tout est renvoyé à des discussions qui vont commencer dès demain, mais il y a déjà la promesse de compensation financière gigantesque pour l'Iran, 300 milliards de dollars par exemple pour la reconstruction du pays. Tout cela fait qu'aux États-Unis, le deal est très critiqué, jusque dans les rangs de la droite. Certains commentateurs évoquent même une capitulation de Donald Trump face à Téhéran.
Alors le deal, comme dirait Donald Trump, est presque trouvé aussi chez nous en France à propos des Jeux Olympiques d'hiver de 2030. Les emblèmes de ces Jeux seront dévoilés ce soir lors d'une cérémonie qui aura lieu à Briançon, avant toute une série de réunions dans les prochains jours au siège du CIO et avant d'acter, ça sera demain, la carte des sites olympiques, celle qui fait tant débat depuis des mois, Edouard G.
Oui, la dernière incertitude a été levée après les arbitrages opérés mardi dernier. Val d'Isère complétera bien le schéma pour les disciplines alpines aux côtés de Courchevel. Les arguments, notamment de jauge spectateur, 5 millions d'euros de recettes billetterie supplémentaires par rapport à Méribel, ou encore le logement des athlètes au pied de la piste olympique ayant définitivement séduit les organisateurs. Autre gagnant, après le désistement de Nice, Lyon, qui récupère le patinage artistique et le hockey sur glace. Quant à la région sud, elle doit se contenter d'un site autour de Serre-Chevalier avec les disciplines nouvelles, telles le ski alpinisme, découvert à Milan-Cortina en février dernier. Reste le lieu des cérémonies d'ouverture et de clôture. Edgar Gros-Piron, le patron des Jeux, devra choisir entre les stades de foot et de rugby de Lyon, le lac de Serre-Ponçon ou encore Annecy.
Les Bleus du foot, ils ont profité d'un petit peu de temps libre hier soir à Boston.
Radio officielle de la Coupe du Monde de la FIFA 2026.
Soirée avec leurs proches. Après un match amical contre une équipe locale au centre d'entraînement, un hommage aussi à Éric Roy, l'entraîneur de Brest, ancien consultant RMC dont on a appris la mort hier, emporté par un cancer à l'âge de 58 ans. Alors les Bleus, ils préparent leur prochain match lundi contre l'Irak. Et pendant ce temps, eh bien les supporters français présents là-bas font les comptes. On savait que ce mondial allait coûter cher. Eh bien ça se confirme à New York où vous êtes, Nicolas Pelletier.
Oui, maillot des Bleus sur le dos. Cédric, venu d'Annecy pour deux semaines, égrène la liste des dépenses.
Les logements, on est à 1490 euros pour une personne. Les billets du match, on est à 704 euros. Et l'avion, on l'a eu à 560 euros.
À ces dépenses courantes, il faut ajouter tous les extras dans les enceintes de la Coupe du Monde. Valentin n'en revient pas.
Ouais, j'ai fait la fan zone au Queens de l'US Open de tennis pour le match du Mexique. Et franchement, les bouteilles d'eau à 7 dollars, je trouve que c'était quand même abusé. Les bières, c'était à peu près 13 et 14 dollars.
Ce supporter de l'équipe de France dispose pourtant d'un bon budget pour le mois de compétition.
En ma globalité, j'avais préparé 10 000 euros. Là, je suis à 2 000 pour l'instant. Donc, pour l'instant, ça va.
À ses côtés, Quentin est encore surpris par le prix des transports.
Pour un sport populaire qui est le football, c'est pas très acceptable. On va le faire parce que c'est pour le foot, c'est la Coupe du Monde, c'est une fois dans une vie. Il n'y a pas de mots, donc on fait peut-être moins attention à l'argent.
Depuis quelques jours, les prix des hôtels sont en baisse aux États-Unis. Une bonne nouvelle pour les supporters des Bleus. S'il faut suivre la compétition jusqu'au 19 juillet, date de la finale à New York.
Je vous donne les résultats de la nuit. La victoire du Ghana 1-0 contre le Panama et de la Colombie 3-1 contre l'Ouzbékistan. C'était la fin cette nuit de la première journée de la phase de poule. Ça veut dire que toutes les équipes ont joué au moins une fois jusque-là. La deuxième journée, elle commencera à 18h tout à l'heure sur RMC Radio Officiel à Atlanta avec la République tchèque face à l'Afrique du Sud.
C'était le journal de Quentin Vinet, 8h09 sur RMC. On va parler économie et pouvoir d'achat.
RMC, Apolline Matin.
Le chiffre d'affaires.
Bonjour Emmanuel. Emmanuel, bonjour, le chiffre 2026 va être une année noire pour notre pouvoir d'achat.
Oui, après la Banque de France qui a divisé quasiment par deux hier sa prévision de croissance 2026, de 0,9 à 0,5%, c'est l'INSEE qui vient de nous livrer ses perspectives économiques pour le reste de l'année, avec une prévision un peu moins pessimiste globalement que la Banque de France, 0,7% de croissance, mais qui alerte sur un gros point noir, le pouvoir d'achat, Pauline. Pouvoir d'achat qui devrait reculer de 0,7% en moyenne par famille cette année, après avoir déjà diminué de 0,8% l'an dernier. Sous la 5e République, il n'y a eu qu'en 2012 et 2013 que le pouvoir d'achat a reculé deux années de suite, avec une ampleur à peu près identique. Donc c'est un recul historique qui se dessine.
Et comment on explique cette dégradation ?
Alors, par la ponction d'abord du choc inflationniste, notamment sur l'énergie. Alors, ce choc est moins fort que celui de 2022, mais les aides publiques ont été beaucoup plus limitées aussi. Le marché du travail se dégrade, le chômage augmente. Du coup, c'est compliqué de négocier des augmentations dans les entreprises ou de bons salaires d'embauche. Donc, côté salaire, ça augmente moins vite que les prix. Très clairement, la priorité des Français aujourd'hui, c'est de boucler les fins de mois. Je vous livre le résultat assez spectaculaire de cette enquête que vient de publier la Fondation Travailler Autrement, pour vous dire à quel point l'état d'esprit des salariés a changé. À la sortie du Covid, en 2022, il y avait 6 actifs sur 10 qui se disaient plus attachés au temps libre qu'au salaire. Aujourd'hui, ils ne sont plus que 1,5 sur 10. Donc, 7 Français sur 10 préfèrent aujourd'hui travailler plus pour gagner plus que d'avoir un meilleur équilibre vie professionnelle, vie personnelle. C'est vous dire à quel point l'urgence...
Et à quel point ça s'est vraiment retourné. Les chiffres du jour, comme chaque jour, sur RMC.
Eh ben, notre petit gazole, il continue de perdre à peu près 1 centime par jour. Donc on est à 1,95 le litre. Le sans-plomb 95, allez, ça a bien résisté, mais ça commence à baisser. On est resté longtemps au-dessus de 1,95, là on est à 1,93. Le pétrole, 76,8 le baril. Je vous rappelle qu'avant la guerre, on était à 69, donc on se rapproche. Et le gaz, toujours moins 20% de baisse depuis quelques jours. En gros, on est à 40 euros le mégawattheure, on est monté à 50 au sommet de la crise, on était à 30 avant, donc on a reparcouru
on est
la moitié
milieu,
du chemin.
Exactement, merci Emmanuel, il est 8h11.
Votre rendez-vous sur RMC avec Banque Populaire, engagée aux côtés de ceux qui entreprennent. Banque Populaire, la réussite est en vous.
Restez bien avec nous sur RMC, il est 8h11. Dans un instant, Arnaud Demanche arrive pour nous faire rire. À 8h30, ce sera le face-à-face. Mon invité, c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. Évidemment, je l'interrogerai sur cette interdiction du concert militant d'LFI pour la fête de la musique. Mais aussi, Maud Bréjon, c'est la ministre de l'Énergie. Emmanuel Macron a annoncé hier que les prix, enfin a promis que les prix à la pompe allaient baisser. Mais quand ? Je lui pose la question, évidemment, sur RMC et BFM TV. Et puis, juste après le face-à-face, tiens, ce sera le choix de la rédaction. Le téléphone portable au boulot. Est-ce que c'est un fléau ? Témoignage de salariés et d'employeurs, vous entendrez sur RMC. 8h12.
RMC, Apolline Matin.
C'est tous les jours de manche.
Arnaud de Manche est avec nous, 8h15 sur RMC.
Et bien, bonjour à tous, très heureux de vous retrouver, Apolline, Élise, Victor et Lou, notre stagiaire de seconde, qui apprend la radio en faisant la météo. Oui. Alors Lou, quel temps fait-il aujourd'hui ?
Il fait chaud.
Il fait chaud, bravo. Une grande. Bravo, c'est très bien. Merci. Mais revenons à l'actu, c'est la canicule, tu as dit dans ton dernier flash, parce qu'elle en connaît des mots compliqués à son âge, déjà, c'est fou. Et qui dit canicule ? Ça, tu vas me détester
non,
pour les jours à venir.
Elle te déteste déjà.
Qui dit canicule sur BFM TV dit Monsieur Météo, Kevin Floury,
bien sûr,
qui est très régulièrement en direct. Et Kevin Floury, vous êtes en direct de la pizzeria Le Vésuvio à Meudon.
Oui.
Vous êtes entre deux fours à pizza sans clim. Est-ce qu'il fait chaud, Kevin ?
Oui, il fait très chaud, mais je suis vraiment obligé de porter une doudoune.
Et oui, Kevin, la direction a dit,
Sinon, c'est pas rigolo.
Ouais, mais je peux faire la météo en plateau si vous voulez.
Oh, c'est climatisé chez nous, vous allez attraper froid. Allez, on vous retrouve dans une heure en haut de la Tour Eiffel avec une barre de fer. Ils annoncent des orages.
Mais je risque de prendre la foudre.
Eh oui, c'est pour ça qu'on filme, Kevin. C'est pour les bêtisiers. Tu vois, Lou, ce qu'ils font aux stagiaires météo à BFM. C'est mieux ici. T'as juste à me subir, moi. Mieux quand même.
Hier, Donald Trump était donc reçu en grande pompe à Versailles.
Oui, il a adoré Versailles. C'est tout brillant. C'est plein d'or. Il a été chez Stéphane Plaza Immobilier à Versailles. Je voudrais racheter le château, monsieur Plaza. Oh! On s'est pas croisés de chez Jeffrey, tous les deux.
Oh non.
Et il a été évidemment question de la fin de la guerre en Iran. Bien Alors, sûr. La France propose de déminer le détroit d'Ormuz. Moi, j'enverrai pas la marine. J'enverrai Jean-Marc Morandini à la place. Oh. Non, mais il a le temps, il travaille plus. Jean-Marc, il faut déminer.
Déminer ? Ah, cool, j'adore les minets. J'arrive. Miaou, miaou. Oh, elle est super bonne.
Bon, voilà, c'est un bon début.
Oh non. Depuis sa sortie de garde à vue, Patrick Bruel est cloîtré, semble-t-il, dans son appartement de Neuilly pour éviter les paparazzi.
Voilà, donc il vit enfin comme un retraité normal à Neuilly, c'est-à-dire qu'il est devant la télé, il regarde Cyril Ferraud qui anime des jeux avec des mots croisés. Après, c'est compliqué pour lui parce que légalement, il a le droit de sortir de chez lui, mais il n'a pas le droit de croiser une victime. Et comme il y en a beaucoup, ça fait des trajets compliqués. Hey, Nicole, ça va ? Comment tu vas ? Excuse-moi, j'ai un doute. T'as déposé plainte contre moi ou pas encore ? On peut discuter parce qu'il y a des nouveaux témoignages chaque semaine. D'ailleurs, Patrick Bruel prépare une nouvelle tournée pour juillet. Il sera lundi en garde à vue à Nanterre, mercredi chez le juge à Paris, jeudi en détention provisoire à Fleury-Mérogis. Tout ça à guichet fermé.
Et puis c'est la polémique du moment au RN. Jordan Bardella est-il trop bling-bling ?
Oui, parce qu'il a été pris en photo avec sa princesse, Maria Carolina de Bourbon, des Deux Siciles et des Jackson 5, lors du Grand Prix de Formule 1 à Monaco. Et quand on lui a demandé sur BFM pourquoi il avait été là-bas alors qu'il y avait la marche blanche pour Liana, il a répondu ça va, hein, des marches blanches, il y en a tous les jours, alors que des grands prix, il n'y en a qu'une fois par an à Monaco, et moi j'aime bien la Formule 1. C'est la vraie réponse.
Il a vraiment dit ça.
Donc après, on lui a demandé d'accord, et vous serez à la table ronde organisée pour les violences faites aux femmes ? Bah, il y a PSG Strasbourg, je ne sais pas. Donc là, ça passe plus, le bling-bling, il va falloir un nouveau plan de com, terminer 50 minutes inside et Paris Match, pour faire plus proche du peuple, on va bientôt le voir dans Capital sur M6.
Ah oui.
8h30, c'est l'ouverture du Lidl de Villeneuve-d'Ascq. Ce jeune couple aux revenus modestes, Jordan et Maria Carolina, sont à la recherche des bonnes affaires.
Bonjour, je m'appelle Jordan Bardella. Avec ma petite princesse, on adore faire les courses à Lidl le samedi. Après, on va à Action. Après, on mange à Pizza dell'Arte. Et après, on va au bistrot. Maurice, un verre de blanc. Et pour toi, ma princesse.
Je vais prendre du champagne.
Coupé ! Elle est nulle. Et alors, les photos du couple, eh ben, ce sera dans Camping Magazine. Voilà, pendant un barbecue géant, un meeting de tuning. Remarquez ses raccords avec Trump. Allez, c'est son idole, c'est son modèle. Il va organiser des combats de MMA au RN, des acrobaties à moto à Montretout, des concours de Miss T-shirt mouillé et des blind tests des années 80. Beauf et franchouillard. Si vous voulez adhérer au RN, il faudra deviner les chansons maintenant. Alors, c'est parti. Qui a chanté ?
Allez !
Oh, on est très RN. Attention. Alors, c'est Bébé Charlie. Vous ne l'aviez pas. Vous ne pouvez pas adhérer au RN. C'est dommage. C'est deuxième. Il y en a eu. Attention, il est compliqué. Sébasto. On s'en souvient de Sébasto. Oh, dernier.
Ça, c'est toute mon enfance, j'ai envie de vous dire.
C'est Bézu.
Ah, Bézu.
Aucun d'entre vous ne pourrait adhérer au RN.
Allez, voilà. Bisous, Bézu. Pas...
Bisous, bisous, Bézu.
Il est 8h20 sur RMC, c'était Arnaud Demange, bien sûr.
Votre moment humour avec Seigneurie. Avec les peintures Seigneurie, vos chantiers prennent vie. Seigneurie, aux côtés des artisans peintres.
Et à 8h20, il y a David qui nous appelle de Duranus au nord de Nice. Bonjour, David.
Bonjour Apolline, bonjour à toute l'équipe.
Comment ça va à 8h20 d'abord ? Vous êtes chauffeur poids lourd, vous êtes sur les routes ?
Ouais, là je suis sur Cannes. Je suis sur Cannes, après je file dans l'arrière-pays sur Valbonne, enfin l'arrière-pays, le haut Cannes, le haut Antibes.
Ça va, pas trop chaud ?
Non, bon après dans le véhicule on a la clim.
Voilà, c'est dans bon, le véhicule on a la clim. Et vous vouliez réagir à ces interdictions ? Alors pas à l'interdiction du concert LFI à République, mais d'autres manifestations, et notamment pour la fête de la musique, à cause de la chaleur.
Tout à fait. Déjà, je veux faire un gros bisou à mes deux enfants, Antoine et Emma, et à ma femme qui sont sur la route dans la voiture, qui doivent sûrement m'écouter.
On les embrasse très très fort. Ils sont en route pour l'école ?
Eh oui, tout à fait.
Alors, on les embrasse très, très, très fort. 8h21 sur la route. Et alors, donc, les concerts et la fête de la musique, David et la canicule.
Ben moi, je pense que ça les arrange bien qu'il y ait la canicule, parce qu'il y a certains que moi je le vois dans Nice, hein, sur ce que je connais, hein, Nice et les alentours, quand il y a des grosses manifestations, genre fête de la musique, 14 juillet, tous ces trucs-là, je suis désolé, mais il y a toute la racaille qui sort des cités, qui vient foutre le bordel de partout. Et moi, je vous dis, j'ai pas attendu la canicule, ça fait des années que j'y vais plus dans ces
Que vous y allez plus, c'est-à-dire que vous redoutez quoi? Vous redoutez des jeunes
Oui, c'est tendu, ils descendent, c'est des bandes de 20, 30, 40, 50, ils emmerdent tout le monde, ils font la loi. C'est donc, la loi du Far West.
Voilà. Pour vous, le problème, c'est pas l'interdiction à cause de la canicule, c'est que, en fait, il y a des troubles à l'ordre public réguliers, quoi.
Et je pense que ça les arrange bien. Ouais. C'est comme ça, au moins, ils perdront pas la figure à dire, ah oui, mais non, on a peur de la sécurité, on a peur de ci. Là, au moins, ça règle le problème.
Alors, en fait, ce que vous êtes en train de me dire, c'est que pour vous, la chaleur, c'est une fausse raison pour annuler, parce qu'on redoute que ça déborde, que ça tourne mal. Je vous entends, David, mais en effet, je pense qu'il n'y a pas besoin non plus d'aller chercher midi à 14h. La chaleur, elle est quand même très, très, très forte. Elle devrait l'être encore plus ce week-end. Hein. Je parle sous le contrôle de Lou Garnier, qui est à côté de moi, mais qui me disait que notamment à Paris on devrait frôler les 40 degrés dimanche, et c'est dimanche la fête de la musique. En tout cas, on a entendu effectivement votre parti pris, votre réaction ce matin, David, et on embrasse votre femme et vos enfants. Il est 8h23 sur RMC, dans un instant je file sur RMC et BFM TV, mon invité c'est la porte-parole du gouvernement, Maud Bréjon. À tout de suite. Merci d'écouter RMC, il est 8h24.
RMC, Apolline Matin.
Le rappel des titres, Clara Gabier.
Cela rappelle ce que la France sait faire, réagit Emmanuel Macron après la signature par Donald Trump de l'accord avec l'Iran, signé par le président américain au château de Versailles. L'Iran s'engage notamment à diluer ses stocks d'uranium enrichi en échange de la levée des sanctions. Le détroit d'Ormuz sera instantanément rouvert, promet le médiateur pakistanais. Avec la chaleur, un logement sur deux devient une bouilloire thermique. L'alerte de la Fondation du logement des défavorisés en pleine canicule. 26 départements en alerte orange. On devrait atteindre les 40 degrés dès aujourd'hui. Ce serait un record pour le mois de juin. La Coupe du Monde avec un gros succès de l'Angleterre pour démarrer. 4-2 contre la Croatie hier soir. Le Portugal décevant avec un match nul 1-1 contre la République démocratique du Congo. Cette nuit, le Ghana s'est imposé 1-0 contre le Panama. La Colombie l'a emporté 3-1 contre l'Ouzbékistan. Ce soir, Tchéquie, Afrique du Sud à 18h. Ce sera à vivre évidemment sur RMC.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin. Face à face.
Vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Maud Bréjon.
Bonjour.
Merci de répondre à mes questions ce matin. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Vous êtes ministre délégué en charge de l'énergie. Je vais évidemment vous interroger sur les propos d'Emmanuel Macron hier soir, qui, à l'issue du dîner à Versailles, a promis une bonne nouvelle, que les prix du carburant et du gaz allaient baisser. Mais je voudrais d'abord vous demander si vous avez passé le test cet hiver.
Alors pas encore, mais je le ferai tout à l'heure. Donc je vous enverrai les résultats si vous voulez.
Vous ferez tout à l'heure le test cet hiver pour savoir si vous avez consommé de la drogue.
Question d'exemplarité, on va le demander à nos collaborateurs, on va le demander au directeur d'administration, et donc c'est normal, le Premier ministre l'a fait lui-même, qu'au plus haut niveau de l'État, on montre l'exemple. Encore une fois, le message qui est envoyé, ce qu'on veut dire par cette directive, c'est quoi?
Des tests salivaires inopinés et obligatoires pour les fonctionnaires, notamment, oui, et les membres de cabinet ministériel.
On a un problème, vous le savez, vous en parlez souvent sur vos plateaux, face au narcotrafic. Le narcotrafic, il y a des vendeurs, et il faut évidemment s'y attaquer, et puis il y a des consommateurs. On ne peut pas ignorer qu'aujourd'hui, les consommateurs de drogue, qui qu'ils soient, et peu importe la drogue dont on parle, ont une responsabilité centrale jusqu'au drame qu'on voit se passer dans certains de nos quartiers ou dans certaines de nos villes. Voilà. Et donc ça concerne tout le monde, ça traverse peut-être plus qu'avant, les classes sociales, les secteurs géographiques. Ce n'est plus uniquement dans les grandes villes, c'est aussi dans les petites villes de province.
Mais ça veut dire quoi, ça veut
Et donc
dire...
le message qu'on envoie, c'est que pour des questions d'exemplarité, pour des questions d'autonomie dans la prise de décision, notamment au plus haut sommet de l'État, enfin on voit bien ce que tout ça pourrait embarquer comme conséquence, eh bien on se
sur
doit...
La lucidité, sur la disponibilité mentale quand on prend une décision.
Sur l'autonomie, sur le fait de ne pas avoir d'addiction, de ne pas être dépendant de quelqu'un ou de quelque chose. C'est quand même ce qu'on attend des plus hauts fonctionnaires, évidemment des ministres. Et donc c'est toute cette démarche-là qu'on met en œuvre et on recentre la place place du consommateur. On peut pas pleurer le week-end les morts que l'on déplore dans les quartiers dus au narcotrafic et en même temps consommer de la drogue le samedi soir. Ça, c'est pas possible. Et il y a aujourd'hui une hypocrisie qui est réelle dans la société française sur ces questions.
Avec quelles conséquences la question qui se pose, et d'ailleurs elle s'était posée, semble-t-il, lorsqu'un des membres du cabinet du Premier ministre avait visiblement consommé de manière jusqu'à faire une sorte vraiment de malaise, qui était un des conseillers agriculture, semble-t-il, de Sébastien Lecornu. Il n'est plus au cabinet aujourd'hui. C'est ce qui, semble-t-il, a fait prendre conscience à Sébastien Lecornu de cette urgence aussi à dépister. Mais moi, je vous pose la question, quelles conséquences? C'est-à-dire que si vous répondiez positive à un test salivaire, vous ou quelques membres de votre cabinet, c'est quoi? C'est un licenciement derrière?
Je pense que quand vous avez aujourd'hui une dépendance aussi importante qu'une dépendance à la drogue, vous ne pouvez pas rester à des fonctions où vous êtes amené à prendre des décisions pour 65 millions de Français. Voilà. Donc ensuite, c'est à la discrétion du ministre, c'est précisé, tout ça est détaillé dans la circulaire. Mais enfin, je crois qu'encore une fois, on ne peut pas demander l'exemplarité aux Français et en même temps, au plus haut sommet de l'État,
est-ce que ça a vocation
avoir des dérives aussi importantes.
Est-ce que ça a vocation à être généralisé, y compris dans les entreprises? Ça a été évoqué.
Non, la question n'est pas posée de cette manière-là. Et vous savez qu'il y a un cadre légal. Mais c'est un message qui est envoyé. Encore une fois, c'est un message qui est envoyé, c'est la responsabilité du consommateur.
Est-ce que le haut fonctionnaire, puisque ça a vocation, si je comprends bien, à être fait dans les cabinets, dans les ministères, mais aussi vis-à-vis des fonctionnaires, est-ce que les hauts fonctionnaires devront démissionner ou être licenciés s'ils consomment de la drogue?
D'abord, on va attendre de voir les résultats.
Non, mais je vous donne un exemple. On en a un sous les yeux. Il y a un an tout pile, l'ancien directeur de l'INA, souvenez-vous, qui a été suspendu après son interpellation pour achat de cocaïne. Il venait de dépenser 600 euros auprès d'un dealer de cocaïne. Suspendu, ça ne veut pas dire licencié. Il a ensuite de lui-même démissionné. Il est membre de la fonction publique, il est énarque, il est, semble-t-il, en tout cas membre de la direction du Trésor. Je ne sais pas si au moment où on se parle, il est revenu à la direction du Trésor ou pas, mais est-ce que, typiquement sur cet exemple-là très concret, est-ce qu'il a vocation à rester membre de la haute fonction publique?
Il y a trois choses. Il y a l'exemplarité, la morale et le droit du travail. Le droit du travail, il s'applique pour chacun, évidemment, fonction de votre statut, fonction de la direction dans laquelle vous êtes. Quand vous travaillez au ministère de l'Intérieur, au ministère des Armées, la situation n'est pas tout à fait la même que dans d'autres
services. Donc ça veut dire qu'au Trésor, on peut être drogué?
Non, je dis qu'il y a, encore une fois, le droit du travail qui s'applique et nous devons aussi l'appliquer, chacun le comprend. Et puis ensuite, il y a une question, encore une fois, je le redis, d'exemplarité et de morale. Quand vous parlez sur vos plateaux télé des jeunes qui meurent à coups de Kalachnikov dans certains quartiers en France, tout le monde s'en émeut pendant quelques jours, eh bien ceux qui font part de leur émotion ne peuvent pas être les
alors,
mêmes.
Alors soyons très clairs, voilà. Maud Bréjon, j'ai parfaitement compris l'aspect symbolique, comme vous le dites, il faut montrer l'exemple.
C'est pas uniquement symbolique.
Je voudrais savoir,
c'est pas uniquement
concrètement,
symbolique, parce que s'il n'y avait pas de consommateurs, s'il n'y avait pas d'acheteurs, il n'y aurait pas de vendeur, vous voyez.
Vous ne me répondez pas.
Mais qui est assez direct.
Le test salivaire pour des fonctionnaires, s'il est positif, est-ce qu'ils peuvent rester fonctionnaires?
Et aujourd'hui, encore une fois, il y a un droit du travail qui s'applique.
Donc ils peuvent rester fonctionnaires.
Il y a un droit du travail qui s'applique. Moi, ce que je peux vous dire vis-à-vis des membres de mon cabinet, c'est que c'est une décision ministérielle qui est discrétionnaire. En revanche, j'estime qu'à un certain niveau de responsabilité, vous ne pouvez pas avoir des femmes ou des hommes qui seraient
dans une
grande
dépendance. Est-ce qu'il faut leur interdire de rester s'ils sont testés positifs? Je pense aussi aux élus. Il y a eu le cas du sénateur Joël Guerriot qui a fini par démissionner et qui était non seulement en train de droguer une de ses consoeur, mais visiblement lui-même aussi en train de consommer de la drogue. Il y a eu le député Andy Kerdrat qui a député LFI. Est-ce qu'ils sont toujours, lui il est toujours député, est-ce qu'on peut être député et consommer de la drogue? Alors, vous disiez on a du mal à, c'est aussi une altération de,
oui,
de la prise de décision.
Oui, je me permets juste de mentionner que dans le premier cas que vous avez cité, il s'agit de soumission chimique.
Tout à fait, mais
voilà. Donc
alors, je ne parlais pas de la soumission chimique pour laquelle il a été poursuivi de manière pénale.
On ne peut plus.
Je vous parle aussi du test. En fait, ce que je veux savoir simplement, c'est est-ce que le test salivaire, c'est juste on fait le test, ou est-ce que c'est on fait le test et ça a des conséquences?
Aujourd'hui, quand vous êtes élu maire ou député, Vous avez deux manières de quitter votre mandat. Soit les Français ne vous réélisent pas à la prochaine échéance électorale, soit il y a une décision de justice fait de vous une femme inéligible. Donc c'est dans ce cadre-là que l'on se place. Ensuite, je crois qu'on est tous responsables, encore une fois, face à notre miroir, du mandat et de la confiance que les Français nous ont donnée.
Ce sera le signe de la confiance.
Et il y a, encore une fois, des échéances électorales. On revient devant les Français, on leur redemande ou pas leur confiance. Et lorsqu'on fait quelque chose, par ailleurs, d'interdit dans le cadre de nos fonctions, les juges peuvent nous déclarer inéligibles. Il ne s'agit pas, encore une fois, il ne s'agit pas de pointer du doigt l'ensemble des fonctionnaires qui font, pour l'immense majorité, un travail remarquable. Et pour l'ensemble des élus qui sont dévoués à leurs électeurs et à la population française. Ce que l'on dit, c'est qu'à tout niveau, l'exemplarité est nécessaire.
C'est compris. Maude Bréjon, porte-parole du gouvernement, ministre délégué en charge de l'énergie. Emmanuel Macron, hier, après la signature, donc à Versailles, de l'accord entre les États-Unis et l'Iran, a déclaré « Cet accord permet de mettre fin au conflit. C'est une très bonne nouvelle. Les prix du carburant et du gaz vont normalement baisser. » C'est quand ?
Alors, le plus rapidement possible, je l'espère. Vous savez qu'on est évidemment très prudent sur les prédictions d'évolution de prix. Nous, on dit une chose simple. D'abord, c'est une très bonne nouvelle pour les consommateurs, pour les Français qui vont partir en vacances dans les semaines à venir, et une très bonne nouvelle pour les entreprises. Je pense notamment aux entreprises les plus exposées, aux agriculteurs, aux pêcheurs, au secteur des transports, évidemment, au secteur du BTP. Donc, ça, c'est la première chose. Et ensuite, on demande aux distributeurs, dans une logique d'équité, de justice et de bon sens, de répercuter les baisses aussi vite que les hausses
lorsque vous leur avez demandé ça.
Ils se sont engagés à le faire. Je constate que dans la majorité des stations-service, ces baisses commencent à se voir.
C'est un centime par jour sur le samplon, c'est deux centimes sur
le gasoil n'a pas été aussi bas, le prix du gasoil n'a pas été aussi bas depuis le 9 mars dernier. Voilà. Donc ça, c'est une bonne nouvelle, encore une fois, pour les Français.
Est-ce que cette baisse,
ça doit continuer à baisser?
Est-ce que cette baisse, à vos yeux, doit retrouver le niveau d'avant-guerre?
Mais ça dépendra de l'évolution de la situation, notamment internationale. Je ne sais pas vous dire sous combien de jours ou combien de semaines le détroit d'Hormuz réouvre, sous combien de jours ou combien de semaines les tankers qui sont actuellement bloqués peuvent circuler. Vous savez qu'il y a un risque assurantiel qui est pris en compte dans les prix. Il y a la question du brut, il y a la question des produits raffinés. Donc il y a l'ensemble d'une chaîne. Pour autant, le prix du baril de Brent avoisine et est passé hier, je crois, sous les $80. Il a été à plus de 120, 130
dollars. Il est à 76 ce matin.
Courant du mois d'avril.
Donc, est-ce que vous dites, voilà, on peut viser que les gens qui pourront partir en vacances en juillet, ou alors ce sera plutôt pour ce doute, qu'ils auront des prix à la pompe, disons, à peu près de l'ordre de ceux d'avant?
D'accord, je ne peux pas m'engager là-dessus et je mentirai aux Français, ou je prendrai le risque de mentir aux Français en m'engageant sur le prix de l'essence et du gasoil à horizon quelques semaines. Ce que je peux dire, c'est que ça a commencé à baisser, que ça doit continuer à baisser, que c'est une bonne nouvelle pour les gens et qu'en tout état de cause, si cet accord se confirme et que tout avance dans le sens que l'on espère, on en voit le bout.
Est-ce que l'aide gros rouleur a été touchée par les Français? Est-ce qu'elle est sur le compte en banque des Français?
A été touchée par les Français. Elle a commencé à être versée en début de semaine. Vous savez qu'il faut parfois quelques heures ou quelques jours le temps que ça arrive sur votre compte. Et donc, ces premières aides sont arrivées, commencent à arriver sur le compte des Français.
Est-ce qu'on les prolonge, ces aides?
Il y a 1 million de Français qui ont fait cette demande.
D'accord.
Un certain nombre ont déjà reçu l'aide. Les autres vont les recevoir.
1 million, c'est à peu près ce que vous imaginiez de ceux qui souffraient de ces hausses de carburant.
Écoutez, nous, on a ouvert cette aide pour 3 millions de Français. Il faut faire une demande, évidemment, justifiée d'un certain nombre de critères. Vous le savez, critères de revenus, être en activité et utiliser sa voiture plus de 25 kilomètres par jour pour aller travailler. Aujourd'hui, il y a environ 1 million de Français qui ont formulé cette demande et qui donc ont touché ou vont toucher dans les jours à venir cette aide.
Vous la prolongez, cette aide ?
Elle était annoncée pour 3 mois avec un versement unique. Et il y a en revanche les aides au secteur d'activité les plus exposés. Aujourd'hui, 30 000 agriculteurs ont fait une demande d'aide suite aux annonces qui ont été faites. Vous savez, 15 centimes D'accord. par litre d'aide. Pour le bâtiment, c'est environ 1000 demandes. Et pour les transports, c'est environ 850 demandes. Ces aides seront maintenues.
850 seulement ?
8500.
Ah, pardon. Parce que j'étais étonnée.
Excusez-moi, 8500. Ces aides seront maintenues jusqu'au mois d'août. Et on voit que c'était utile.
Quand vous seront maintenues jusqu'au mois d'août. C'est-à-dire que même si là, dans deux semaines, dans trois semaines, le carburant est vraiment baissé.
C'était notre engagement. D'abord, ils ont traversé une période difficile. On s'est engagé en mai à des aides pour trois mois sur juin, juillet, août. Nous n'avons pas de raison de reprendre aux Français ce que nous avons donné ou ce que nous avons promis. Encore une fois, quand vous avez 30 000 agriculteurs qui sont venus faire ces demandes-là, c'est qu'ils en ont besoin et donc c'est normal d'être à leur côté jusqu'au bout. Maintenant, il faudra aussi tirer les conséquences de cette crise. Moi, je veux redire devant vous qu'on a fait ce choix d'aide ciblée, d'aide respectueuse des finances publiques. Et je crois que c'était la bonne solution.
Mais dans un contexte où ces finances publiques, elles vont largement se dégrader, je voudrais quand même vous rappeler les révisions de croissance à la baisse annoncées hier par le gouverneur de la Banque de France. On passe de 0,9% de perspective de croissance à 0,5%. Parallèlement, l'inflation qui était prévue pour 1,25% est prévue finalement aux alentours de 2,5%. C'est une très mauvaise nouvelle. Est-ce que honnêtement, le budget tient toujours ?
Alors, d'abord, je voudrais finir sur la question des aides en disant une chose. Si on avait écouté, par exemple, le Rassemblement national, il y a deux mois, on aurait 12 milliards d'euros de trous dans la caisse. Puisque la baisse de la TVA sur l'ensemble des produits énergétiques, carburant, électricité, gaz, c'est 12 milliards d'euros. Voilà. Si on avait écouté la France insoumise, on aurait bloqué les prix avec probablement en ce moment vos caméras en train d'observer des pénuries dans certaines stations-service en France. Et donc la gestion de crise, je le dis, ça demande un peu de sang-froid. Et je crois qu'encore une fois, faire ce choix respectueux des finances publiques, notamment au regard de ce que vous venez de dire, c'était
important. Vous repose la question, est-ce que notre budget, qui était prévu avec une croissance de 0,9 et qui finalement va se retrouver avec une croissance de 0,5 au mieux, est-ce que ce budget, il tient toujours ?
Nous maintenant l'objectif de 5% de déficit. Les prévisions qui ont été publiées ne tiennent pas compte de la réouverture du Z3 et donc d'une relance la plus importante possible, on l'espère, de l'économie et notamment de l'économie française. Pour autant, ne cachons pas aux Français que nous sommes dans une situation qui est une situation difficile avec un contexte international, un contexte européen qui est difficile et donc il faut continuer encore une fois à gérer les choses et à gérer l'argent qui est l'argent des contribuables avec sérieux, tout simplement.
Maud Bréjon, dimanche soir, fête de la musique et les Insoumis avaient prévu un grand concert militant Place de la République. La préfecture de police de Paris a décidé de l'interdire. Comment vous réagissez ?
La préfecture de police de Paris est dans son rôle. Elle constate des risques de troubles à l'ordre public du fait d'invités qui ont tenu par le passé des propos
mais qui, pour la plupart de ceux qui sont évoqués par la préfecture de police, ne seront pas sur scène.
Des forces de l'ordre, il y a plus d'une cinquantaine de zones pour, encore une fois, nos policiers à sécuriser. Moi, je les remercie du travail qu'ils vont faire dans des conditions qui, pour des raisons d'affluence, pour des raisons de météorologiques, ne seront pas faciles. Et donc, je crois qu'ils font un travail encore une fois essentiel
pour l'ensemble, pas le lieu, pas le jour.
Pour l'ensemble de la population. Et on voit bien dans la réaction de la France insoumise qu'ils sont encore dans une stratégie de conflictualisation de toutes les décisions, y compris lorsqu'elles sont prises par des représentants de la République. Le préfet de Paris fait un travail absolument remarquable.
Ils ont fait appel à cette décision.
Il prend, et c'est tout à fait leur droit, il prend cette décision pour protéger les Parisiens, pour permettre à ce que ces festivités, parce que c'est d'abord un moment festif, se passent dans les meilleures conditions possibles. Voilà. Et puis, vous voyez, quand je lis hier la réaction de Jean-Luc Mélenchon et que je vois dans ce tweet qu'au fond, à la fin, le responsable, c'est le président du CRIF, ben, je vois qu'on retombe quand même dans ses vieux travers.
Ce que vous voulez dire, c'est qu'en pointant la décision, lui, il dit, en fait, c'est parce que le président du CRIF avait critiqué la tenue de ce
meeting. Parce que, vous voyez, Apolline de Malherbe, on est nombreux à avoir critiqué la tenue de ce meeting ou la tenue de ce concert très politique dans un moment qu'on estime.
Mais il a retenu en effet deux responsables à ses yeux, Yonatan Arfi du CRIF et le maire du centre de Paris, Ariel Veil.
Et là encore, on flirte avec quelque chose. On flirte avec quelque chose qui ne dit pas son nom. Mais
ce que vous voulez dire, c'est que ce sont deux non-juifs.
Bah, ce que je veux dire, c'est qu'à la fin, le préfet de police prend une décision et que pour Jean-Luc Mélenchon, le responsable, c'est le président du CRIF. Alors, je veux bien qu'on nous dise qu'on hallucine quand on voit des divagations à connotation antisémite de la part de Jean-Luc Mélenchon, mais là encore, on retombe dans une
Non. Ce que vous voulez dire, c'est que vous êtes prête à vous endosser la responsabilité aussi, avec plein d'autres, d'avoir critiqué la tenue de ce meeting.
Et je constate que de très nombreux responsables politiques ont critiqué la tenue de ce meeting, et qu'à la fin, le responsable, c'est le président du
Le maire et les filles de Saint-Denis.
C'est quand même, enfin.
Le maire de Saint-Denis, Bali Bagayoko, a dit chez mes confrères de l'Opinion hier matin que siffler la Marseillaise dans les stades était, je cite, un droit légitime à la réplique populaire. Siffler la Marseillaise quand la France se déshonore par ses actes à l'international, c'est un droit à la réplique populaire, parce que les enfants de celles et ceux qui sont ici dans les grands stades, ils sont aussi citoyens d'ici, mais aussi de là-bas. Comment vous réagissez ?
Ça en dit long sur leur rapport à la République. Qu'un élu de la République qui porte l'écharpe tricolore, donc les couleurs de la République, puisse dire publiquement qu'au fond il est normal, il est légitime de siffler la Marseillaise. Là encore, c'est un droit.
Siffler la Marseillaise droit à la réplique populaire. Voilà l'expression.
Ça, Pauline de Malherbe, c'est pas un dérapage, c'est une stratégie politique. C'est une stratégie de conflictualité et une stratégie de sédition vis-à-vis de nos valeurs républicaines.
De sédition.
Oui. D'ailleurs, on a vu un certain nombre de propos de Monsieur Bagayoko allant dans ce sens, remettant en cause
sur la question de l'insurrection populaire,
remettant en cause les fondements même de notre République.
Ce que vous évoquez, j'imagine, c'est la question de l'insurrection populaire possible.
Notamment.
Voilà ce qu'il disait. Je ne dis pas que c'est souhaitable, dit Bali Bagayoko, mais elle est possible à partir du moment où toutes les digues auraient sauté face à l'extrême droite. Il évoque une éventuelle arrivée de l'extrême droite au pouvoir. Maud Bréjon, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Porte-parole du gouvernement et ministre délégué en charge de l'énergie. Vous êtes bien sur RMC BFM TV. Dans un instant sur RMC, le choix de la rédaction, le téléphone portable au boulot, est-ce que c'est un fléau? Et puis on vous donne les toutes dernières infos dans notre page Coupe du Monde.
RMC, Apolline Matin.
Vous êtes bien sur RMC, il est 8h51, dans un instant le mondial de Virginie avec vous, Virginie Fulpin. Bonjour Virginie.
Bonjour tout le monde.
Vous allez nous donner toutes les dernières infos sur le mondial et sur les Bleus qui profitent de leur victoire inaugurale. Mais avant cela, le choix de la rédaction. Et c'est avec vous Victor Joannin. Bonjour Victor.
Bonjour.
Journaliste au service économie et sociale d'RMC, est-ce que vous consultez votre smartphone au travail? Les employeurs s'inquiètent des conséquences sur la concentration de leurs salariés. Victor, selon un sondage IFOP, 9 dirigeants sur 10 se disent très préoccupé.
Oui, et l'addiction au portable commence à poser problème dans les entreprises. Le portable, jamais loin de nous, dans la poche ou posé sur le bureau, et même retourné, même en mode silencieux, eh bien le téléphone vibre, attire, déconcentre et rend moins performant. Exemple, avec Louis et Aril, ils sont conseillers bancaires et ils ne peuvent pas s'empêcher de déverrouiller leur smartphone plusieurs fois par jour.
Il y en a qui sont un peu plus addicts, mais moi, c'est 4-5 fois.
J'essaie 5 à 10, voire plus 10 que 5. Dès qu'on va avoir un temps libre, où je vais avoir un moment de creux, c'est le téléphone qui va revenir dans la main, alors que je pourrais m'avancer sur d'autres choses. C'est vrai que l'appel perso, le SMS perso qui va arriver, on va vouloir regarder, il va déconcentrer et après on va plus être dedans et... Même en face de nous, du client qu'on peut avoir après, c'est plus pareil, je trouve.
Il faut le savoir, à forte dose, le smartphone agit comme une drogue et se restreindre est encore plus compliqué quand le perso et le professionnel se mélangent, comme pour ce chauffagiste.
Alors moi, j'ai un téléphone unique qui va faire les deux. Après, c'est mon piège que je me suis tendu tout seul. Tu vois, en fait, tiens, j'ai pas une nouvelle de mon pote. Ah, tiens, de mon client. Ah, tiens, le fournisseur. Et en fait, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ça devient addictif, quoi. Je le laisse volontiers se décharger. Oh, il a 6%. Ouh, génial. Bim, il s'arrête. Oh, tranquille.
Presque besoin, en fait, d'être soulagé à un moment. Absolument. De la propre charge que l'on a mise. En fait, au-delà de la question de la charge mentale, Victor, il y a la question aussi de la sécurité, quand même, dans beaucoup de pays, de métiers.
Dans beaucoup de métiers, on pense bien sûr au transport, mais pas que.
Moi, je suis couvreur, donc je suis toujours sur les toitures. Quand on t'appelle, tu as le téléphone dans la poche, donc tu veux décrocher, mais c'est souvent quelque chose d'inutile, une publicité, ou ça m'a mis en danger pas mal de fois. Donc quand j'y pense, je le laisse au camion.
L'abus de portable peut nuire à votre sécurité, mais aussi à celle des autres. C'est le cri d'alerte de Brice Alzon. Il préside la Maison des services à la personne, une structure qui emploie des milliers d'aides à domicile.
On remarque surtout qu'il y a une explosion d'écouteurs Bluetooth que l'on voit pas forcément donc comme ça au premier abord parce que ça peut être caché par les cheveux. Ça isole une intervenante, une aide à domicile. C'était d'autant plus qu'il y a même maintenant une téléfonction enfin, où on peut isoler du bruit. Et là, il y a un vrai risque lorsqu'on peut être dans une cuisine à faire un plat et se rendre compte que bah il peut y avoir une surchauffe, qu'une personne âgée chute. C'est un sujet qui devient de plus en plus prégnant et de plus en plus récurrent, vraiment.
Et on l'entend, les employeurs sont inquiets, Victor.
Oui, ce chiffre, dans le sondage, 7 patrons sur 10 remarquent une baisse de performance chez leurs salariés qui pianotent ou qui scrollent sur leur téléphone. Edia gère une boulangerie en région parisienne et elle le constate au quotidien.
Aucune concentration sur le travail, pas à l'écoute du client, manque de rapidité, manque de service. Ça nous énerve parce que le temps de travail, il n'est pas appliqué, il n'est pas fait. Et du coup, ils prennent beaucoup de retard. Ça crée des tensions avec les salariés. Et du coup, si on en dit une de ranger, l'autre, elle va le sortir. Et pourquoi moi, je le range? Et pourquoi l'autre, elle le sort? Et ça commence à se balancer entre eux. Elle est là dans la poche, elle ceci, elle... C'est dur.
Alors, Edia, à Séville, le portable est interdit pendant les heures de boulot. Une affiche collée dans l'arrière-boutique le stipule en toutes lettres.
Donc maintenant, je leur dis que vous avez le fixe dans l'établissement. Si vos parents veulent vous joindre, c'est sur le fixe. Si vous avez des maris, des enfants, c'est sur le fixe. Mais même avec ça, ils ne veulent pas appliquer.
Alors une question, un patron peut-il interdire le portable pendant les heures de service? Eh bien oui, mais il doit le justifier pour des raisons de sécurité, d'hygiène ou pour l'image de l'entreprise quand le salarié est en contact avec la clientèle.
Merci beaucoup Victor. Victor Joannin ce matin pour le choix de la rédaction. C'est l'heure de parler du mondial. Virginie Fulpin est toujours avec nous et avec vous les dernières infos de la Coupe du Monde.
RMC, le mondial de Virginie.
L'équipe de France qui profite de son entrée en matière réussie dans cette Coupe du Monde.
C'est bon, là, je crois que toutes les vestes sont retournées. Tout le monde aime à nouveau Kylian Mbappé. Il suffisait d'un doublé contre le Sénégal et les critiques ont fondu comme neige sous cette canicule. L'équipe de France avait quelque chose à dire au monde entier.
Vous avez un nouveau message.
Bien reçu, d'accord, vous êtes bien au rendez-vous de la Coupe du Monde. Même le supercalculateur Opta revoit ses prévisions à la hausse. Pour les Bleus, ils ont maintenant 99,85% de chances de passer en 16e de finale, ça devrait le faire, 25% de chances d'aller en finale et même 15% de chances d'être champion. 3 points de plus que l'Espagne et l'Argentine. Les Bleus, à nouveau leader des pronostics.
Ils ont repris l'entraînement, d'ailleurs, après leur victoire.
Et les remplaçants ont joué un match amical contre l'équipe locale de Boston. Et les titulaires, ils sont allés mollo à l'entraînement. On récupère, on se relaxe après une victoire. On écoute de la musique aussi. Nos reporters sont allés tendre une oreille aux playlists des joueurs pour cette Coupe du Monde. Sans surprise, la part belle au rap.
Les pronostics sont défavorables. Les derniers finissent au top.
Lundi et Tiakola, ce dernier étant proche de plusieurs joueurs de l'équipe de France d'ailleurs, mais en rentrant à leur hôtel à Boston après le match contre le Sénégal, les Bleus ont eu droit à une haie d'honneur et à un refrain qui sent bon la victoire. Ça continue, gala, comme toujours.
Et évidemment, alors Kylian Mbappé a rassuré les Français. Cristiano Ronaldo, en revanche, a inquiété les Portugais.
Est-ce qu'il joue la Coupe du Monde de trop à 41 ans? En tout cas, il a été transparent lors du match nul un partout du Portugal contre la République démocratique du Congo hier soir. Il y a un pari assez drôle sur la plateforme Polymarket qui est inaccessible en France, je le dis. Hein, on peut miser sur le fait que Cristiano Ronaldo va pleurer pendant cette Coupe du Monde. Près de 100 000 euros ont été misés et les chances de voir CR7 pleurer sont estimées à environ 70%. Attention, les larmes doivent être versées pendant que le Portugais est sur le terrain ou sur le banc de touche dans les vestiaires.
Ah oui, pour gagner, il faut que ce soit vraiment sur le terrain.
Voilà, exactement. Bon, en même temps, il pleure à chaque fois quasiment Cristiano Ronaldo. Hein. Hier soir, c'est surtout les supporters portugais qui ont pleuré devant sa performance, si j'ose dire.
Cette Coupe du Monde, elle a déjà fait deux heureux.
Tout a commencé pendant le match États-Unis-Paraguay le week-end dernier à Los Angeles. Maria Alejandra n'a pas eu de place dans le stade. Elle s'est rendue dans la fan zone et à la mi-temps, en faisant la queue pour aller aux toilettes, elle a rencontré un supporter des États-Unis. Ils se sont revus ensuite, ils ont pris un verre. Bref, ils sont tombés amoureux.
Non,
évidemment,
j'adore.
C'était à Los Angeles, à quelques pas d'Hollywood.
Merci Virginie. Virginie Fulpin ce matin avec nous. RMC, je vous le rappelle, radio officielle de la Coupe du Monde avec nos 40 personnes sur place aux États-Unis, au Mexique, au Canada, partout. Dans un instant, les GG. Alain Marchal est rentré dans ce studio. Salut Alain, quel est le programme?
Bonjour à tous. On vous attend au 32-16 pour agir, pour débattre sur la circulaire Le Cornu qui demande des dépistages de drogue dans les ministères. Est-ce qu'il faut faire la même chose aussi dans les entreprises? Et vous écouterez notre ami Charles Consigny, avocat. Il lance son appel du 18 juin. Ça vous intrigue? Tant mieux. Reste à l'écoute des GG.